Il est 7h.
On est surpris à la fois de son intensité naissante et à la fois du fait qu'elle est beaucoup plus précoce que ce qu'on a imaginé.
La sidération des médecins alors que la deuxième vague déferle en Europe. En France, plus de 52 000 cas positifs ont été enregistrés en 24 heures. Chiffre record aussi en Espagne et en Italie où de nouvelles restrictions sont mises en place. Nous irons à Barcelone où la mesure est plutôt bien vécue. Paris appelle à la fin du boycott des produits français dans certains pays du Moyen-Orient. Des appels relayés après les propos d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression. Jean Castex reçoit ce matin les partenaires sociaux à Matignon pour faire un point sur le calendrier de la réforme des retraites et de l'assurance chômage. L'occasion surtout de faire un point sur les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19. Et puis LOL, c'est le nom du premier chien d'assistance judiciaire en France. Un labrador chargé d'accompagner les victimes d'infractions pénales. Reportage dans ce journal.
Et juste après, on a beaucoup parlé de la recherche d'un vaccin. Ça ne suffit pas. La vaccination de masse, la distribution pose d'importantes questions de logistique. C'est l'éclairage éco. Le bras de fer franco-turc et ses appels au boycott de produits français dans le monde musulman. Le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Va-t-on pouvoir échapper à un reconfinement en France ? La question se pose alors que plus de 52 000 cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. Le nombre de malades en réanimation aussi inquiète. Il dépasse désormais les 2 500. La deuxième vague est donc bien là, mais on ne l'imaginait pas si virulente, Anne Le Gall. Comment expliquer une telle ampleur ?
Eh bien d'abord, sans doute qu'avec les masques, les tests, une meilleure prise en charge des malades, une forme d'insouciance s'est installée dans l'esprit des Français cet été. Ensuite, même si le virus circule activement chez les 20-30 ans depuis le mois de juillet, ça ne se voyait pas, ils n'étaient pas malades. Les hôpitaux ont pu souffler, mais le virus s'est quand même propagé. Pour le professeur Gilles Pialoux, qui dirige le service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, tout cela peut expliquer une certaine sidération face à cette deuxième vague.
On est surpris à la fois de son intensité naissante et à la fois du fait qu'elle est beaucoup plus précoce que ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire que, mais ça, c'est probablement des erreurs politiques d'avoir sous-estimé notamment le poids de la rentrée. Je parle de la rentrée scolaire, mais de la rentrée étudiante aussi, qui a probablement eu un facteur d'accélération du processus de diffusion du virus chez les plus jeunes.
Et enfin, la météo pourrait aussi expliquer le sursaut actuel de l'épidémie. Plusieurs experts l'évoquent. La pluie et le froid début octobre ont poussé les Français à rester en intérieur. Or, on le sait, les lieux confinés favorisent la transmission du virus, surtout s'ils sont mal aérés.
Anne Le Gall pour Europe 1.
Une deuxième vague qui touche aussi les autres pays européens. En Espagne, l'état d'urgence sanitaire a été décrété pour 6 mois jusqu'au début du mois de mai.
Avec la mise en place d'un couvre-feu dès 22 ou 23 heures, selon les régions, seules les Canaries ne sont pas concernées. C'était donc la première cette nuit et la mesure est plutôt bien acceptée à Barcelone, Henri de Laguéry.
Et oui, parce que tout le monde est conscient ici de la gravité de la situation et puis l'ambiance n'était déjà plus la même car les bars et les restaurants sont fermés depuis 10 jours, d'où ce fatalisme qui domine chez Iris, la trentaine, prof au collège.
Oui, c'est dur, mais on finit par s'habituer à tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire ? Se rebeller ?
Cette première nuit de couvre-feu qui a commencé ici à 22h et s'est terminée à 6h s'est bien passée. Les autorités veulent surtout mettre fin au rassemblement alcoolisé entre jeunes. Des ados le reconnaissent, ça va être dur de rester à la maison le samedi soir. Mais pour Marta, employée de banque, c'est un moindre mal. Elle redoute surtout un confinement à domicile.
Les autorités disent déjà que si ça ne s'améliore pas d'ici quelques jours, on aura un autre confinement total. J'espère que ça n'arrivera pas, mais je m'y prépare mentalement.
Charles, français installé ici depuis 8 ans, est d'ailleurs persuadé que ce couvre-feu sera respecté.
Les Espagnols, de manière générale, ils ont été assez conciliants avec les décisions du gouvernement. Mais de toute manière, si c'est pour le bien de tous, ça me va.
La deuxième vague est arrivée très tôt ici, à la fin de l'été. Alors aujourd'hui, les Espagnols se sentent un peu moins seuls. Beaucoup observent d'ailleurs avec préoccupation la situation du voisin français.
Henri de Laguéry pour Europe 1. Face à la deuxième vague qui déferle, c'est finalement à travers toute l'Europe que l'on voit s'appliquer des formes de reconfinement partiel, Isabelle Horry.
Effectivement, ici à Bruxelles, par exemple, le couvre-feu va démarrer à 22h dès ce soir. Théâtre, musée, salle de sport ferment leurs portes aujourd'hui. Les bars et les restaurants, eux, ont déjà baissé le rideau il y a une semaine. La Belgique est l'un des pays les plus atteints sur le continent. En Italie, même type de mesure pour la culture et le sport. La restauration fermera à 18h, a annoncé hier le Premier ministre Giuseppe Conte. Un couvre-feu est en place dans les régions de Rome, Naples et Milan. Il devrait s'étendre cette semaine. Les restrictions se multiplient aussi à l'Est, qui avait été relativement épargné par la première vague. Couvre-feu en Slovénie depuis samedi, reconfinement partiel en Slovaquie, toute la Pologne placée en zone rouge. Et en République tchèque, où l'épidémie semble hors de contrôle, les déplacements sont restreints, les magasins fermés, les écoles en partie aussi. Mais le Premier ministre a prévenu hier qu'il allait sans doute falloir faire encore plus. En fait, il n'y a plus que le nord de l'Europe, Scandinavie et Pays-Baltes, qui semblent encore relativement épargnés par la montée en puissance de cette deuxième vague.
Isabelle Horry pour Europe 1.
Et cette deuxième vague, elle est mondiale évidemment. Dans le journal de 8h, nous vous emmènerons au Japon où on ne cherche pas là-bas les cas contacts, mais on cherche à tracer, à remonter la lignée de contamination antérieurement. Aux États-Unis, tiens, l'ambiance est au règlement de compte. La question est très politique. Joe Biden accuse Donald Trump d'avoir capitulé face à la pandémie.
Et la faute à ces propos ambigus du chef de cabinet du président américain. Il a déclaré sur CNN « Nous n'allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu'on puisse avoir des vaccins. C'est un constat honnête de la stratégie de Trump, a réagi son adversaire à la présidentielle. Espérer que si on l'ignore, le virus s'en ira.
7h06 sur Europe 1. La tension monte d'un cran entre la France et la Turquie. Erdogan a une nouvelle fois mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron.
Et c'est la deuxième fois en moins de 48 heures des propos jugés inacceptables par l'Élysée prononcés lors d'un discours télévisé.
Ces derniers temps, le président français est ébranlé. Il est obsédé par Erdogan, jour et nuit. Avant toute chose, regardez-vous et regardez où vous allez. J'ai déjà dit tout ça hier à Kayseri. C'est un cas mental. Il a donc vraiment besoin de subir des examens.
Et depuis, plusieurs pays du Moyen-Orient ont appelé au boycott de produits français, des fromages, des confitures et des produits cosmétiques retirés des rayons, Jean-Jacques Herry.
Sur 57 États musulmans dans le monde, on a pu observer des appels au boycott des produits français dans seulement 5 ou 6 d'entre eux. C'est donc une minorité. Pour cette raison, voir la vache qui rit disparaître des rayons des supermarchés du Koweït ne reste encore que de l'ordre du symbole, analyse Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po.
C'est du symbole et c'est du symbole spectaculaire. À l'époque des réseaux sociaux, il est bien évident que ces images de boycott de produits, même si c'est tout à fait secondaire, à la fois sur le plan économique et sur le plan diplomatique, évidemment, ça va produire un phénomène. En tout cas, c'est ce qu'on pense.
Un phénomène d'entraînement pas encore observable pour le moment, car toujours selon le chercheur, il sera difficile pour un pays d'assumer un véritable boycott, car il faudrait alors faire face aux sanctions anti-boycott de l'ensemble de l'Union européenne, avec qui les pays du monde musulman entretiennent des échanges plus importants qu'avec des pays comme les États-Unis ou la Chine. Cela n'empêche pas les condamnations diplomatiques. En revanche, dernière en date, celle du Maroc, la liberté d'expression ne saurait sous aucun motif justifier l'offense injurieuse de la religion musulmane, écrit dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères marocain.
La réponse d'Emmanuel Macron est sans appel. Nous sommes unis, rien ne nous fera reculer, jamais, a tweeté le chef de l'État. Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix et défendons le débat raisonnable, a-t-il écrit en français, en anglais et en arabe.
10 jours après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, le préfet va devoir motiver son arrêté de fermeture de la mosquée de Pantin.
La décision avait été prise par Gérald Darmanin 3 jours après la mort du professeur d'histoire géo, mais un recours a été déposé par les responsables du lieu de culte. Le préfet va donc présenter lui-même les arguments qui motivent son arrêt de fermeture devant le tribunal administratif, notamment la publication de la vidéo du parent d'élève mettant en cause Samuel Paty et la présence d'un imam radical au sein de la mosquée de Pantin.
7h09 sur Europe 1, où en est-on ? Où en est-on de la réforme des retraites et de l'assurance chômage ? Jean Castex reçoit ce matin les partenaires sociaux à Matignon pour faire un point sur le calendrier.
Et pas moins de 17 thèmes sont à l'ordre du jour, mais Olivier Samin, les échanges vont surtout porter sur la réponse à apporter à la crise sanitaire.
Quand le rendez-vous pour cette nouvelle conférence avait été pris, c'était au mois de juillet, personne n'imaginait un retour aussi violent de l'épidémie, obligeant le gouvernement à mettre 46 millions de Français sous couvre-feu. Autant dire que l'agenda qui avait été bâti à l'époque risque d'être escamoté. On parlera sans doute un peu des nouvelles formes de travail, du partage de la valeur ou de l'évolution de la protection sociale, mais c'est sur les réponses à la crise et sur le sort des réformes actuellement dans les tuyaux que le gouvernement est d'abord attendu. Réponse à la crise, il y a des choses qui commencent à porter leurs fruits, dit le ministère du Travail. L'aide à l'embauche des jeunes notamment et l'apprentissage. Sur les réformes, là, ça risque de chauffer. Jean Castex va-t-il maintenir l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'assurance chômage le 1er janvier prochain, alors que les syndicats s'y opposent farouchement? Quant à la réforme des retraites, l'échéance est un peu plus lointaine, mais la question du financement va très vite revenir avec son corollaire, travailler plus longtemps. Et là aussi, sujet explosif.
Olivier Samin pour Europe 1.
On s'intéresse ce matin à cette initiative dans le département du Lot. Nous vous présentons aujourd'hui le premier chien d'assistance judiciaire.
Et l'idée vient des États-Unis. LOL, c'est le nom de ce labrador qui accompagne les victimes d'infractions pénales et qui les aide à surmonter l'épreuve des auditions, du procès. C'est l'association France Victimes qui s'occupe du chien, hébergé à l'année par les pompiers de Cahors, dont il est devenu la mascotte. LOL a été spécialement dressé pour accomplir ses missions. Un reportage de Stéphane Place lors d'un procès en appel au tribunal d'Agen.
Agressés, frappés, dépouillés en pleine nuit chez eux à côté de Cahors, Jean-Louis et son épouse ont vécu un cauchemar l'an dernier. Et de la première audition jusqu'à ce procès en appel de trois hommes poursuivis pour ce vol avec violence, ces retraités ont été accompagnés par LOL, le premier chien d'assistance judiciaire de France. Un labrador au pelage noir brillant, spécialement formé à l'accompagnement des victimes et qui ce jour-là, au tribunal d'Agen, ne quitte pas Jean-Louis, venu raconter son calvaire à la cour.
Je suis sur le banc de la partie civile. Le chien est à côté de moi, où il est assis, où il est couché, mais j'ai besoin de le toucher. Ce contact me fait énormément de bien, je respire mieux, je suis moins stressé.
Un labrador devenu un atout incontournable pour l'association France Victimes dans le Lot, à laquelle appartient Alexia Mesté.
L'idée, c'est que la victime, par la présence de ce chien, la caresse, le regard aussi, puisse se sentir un peu plus sécurisée dans des temps judiciaires difficiles pour les victimes. Donc LOL, il peut les assister au moment du dépôt de plainte, une audition en gendarmerie, commissariat, en cabinet d'instruction. Il peut être présent aussi aux audiences correctionnelles, des sessions de cour d'assises.
LOL a déjà effectué une quarantaine d'interventions auprès de victimes d'infractions pénales, des adultes, mais aussi des enfants. Agen, Stéphane Place, Europe 1.
Les sports à présent avec la victoire historique de Lewis Hamilton au Grand Prix du Portugal.
Le champion du monde a signé hier sa 92e victoire en Formule 1. Il dépasse ainsi le record de victoire de Michael Schumacher. Et puis un mot de football. Lyon a écrasé Monaco 4 buts à 1 hier soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Accroché à Nice, 1 partout. Lille laisse la première place du classement au PSG.
Merci Émilie Dez. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Ahmet İnsel, économiste et politologue, mon invité à 7h40, une référence parmi les intellectuels turcs. Je voulais le recevoir, que vous l'écoutiez, pour qu'on avance ensemble sur cette situation extrêmement tendue dans la relation franco-turque. Peut-on encore parler de relation? D'ailleurs, surenchère diplomatique d'un président qui appelle par deux fois Emmanuel Macron à examiner sa santé mentale, la lutte contre l'islamisme radical et la réaction du monde musulman. Quel est l'agenda du chef de l'État turc? Ahmet İnsel, auteur de la nouvelle Turquie d'Erdogan, invité du tête-à-tête Europe matin à 7h40 tout à l'heure. Le regard international de Vincent Hervouet dans un instant. Notre discours en France et la confusion diplomatique à l'étranger. C'est juste après l'éclairage éco. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Et cette semaine, nous sommes avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors que les menaces de reconfinement se précisent dans plusieurs pays, notamment en France, un nouvel espoir se lève du côté des vaccins contre le Covid-19, où manifestement les choses s'accélèrent.
Oui, plusieurs signes montrent qu'on est entré dans des semaines décisives. Le laboratoire américain Pfizer a commencé la production de centaines de milliers de doses de vaccins, notamment en Belgique. Un autre américain, Moderna, annonce qu'entre 20 et 40 millions de doses seront prêtes d'ici à la fin de l'année. Ces deux labos ont déjà mené des tests conclusifs sur au moins 30 000 patients. Ils leur ont permis de vérifier qu'il n'y avait pas à ce stade de contre-indication à la distribution de ces produits. Et ils n'attendent plus que le feu vert des autorités sanitaires pour les mettre sur le marché.
Mais à quel moment vont commencer réellement ces campagnes de vaccination?
Alors pour l'instant, c'est variable selon les pays. En Chine, par exemple, on a pris de l'avance, même si les tests cliniques ne sont pas terminés. Des centaines de milliers de Chinois ont déjà été vaccinés, essentiellement des soignants ou des populations exposées. Autre pays, l'Allemagne, là on promet des premières vaccinations au cours du premier trimestre de l'an prochain. Et les autorités cherchent déjà à localiser des entrepôts où l'on pourra stocker des doses qui doivent être maintenues entre moins 60 et moins 100 degrés. Le calendrier devrait être à peu près le même aux États-Unis, même chose en France. Mais il faut quand même préciser une chose, c'est que si on approche du but, les premières vaccinations resteront ciblées. Il ne faut pas espérer la moindre généralisation avant au moins l'été prochain.
Mais tous ces vaccins seront-ils vraiment efficaces?
Alors là aussi, prudence. Pour l'instant, plusieurs scénarios sont à l'étude. Il est d'ores et déjà certain que les premiers vaccins disponibles n'assureront pas une protection à 100%. Il faudra donc attendre les produits suivants pour espérer vraiment vaincre l'épidémie. Et puis, il y a une autre condition qui n'est pas négligeable, c'est celle de savoir dans quelle mesure les populations accepteront de se faire vacciner. Un récent sondage de Gallup aux États-Unis a montré que seulement 50% de la population américaine y était prête. Beaucoup d'inconnus, donc, et la leçon de tout cela, c'est que l'espoir existe, certes, mais en attendant, il ne faut surtout pas relâcher les mesures de distanciation qui restent à ce jour le meilleur rempart contre la maladie.
Daniel Fortin, merci beaucoup. C'est important ce que vous soulignez ce matin. On a beaucoup parlé de la course au vaccin. La question logistique va se poser évidemment dans les mois qui viennent. Daniel Fortin, merci. 7h17, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Daniel, bonjour à tous.
C'est à la une ce matin, bien sûr. Le torchon brûle entre la France et la Turquie.
Oui, alors avant-hier, Recep Tayyip Erdogan s'inquiète de la santé mentale d'Emmanuel Macron. Il l'invite à se faire soigner et sous l'insulte, l'Elysée se cabre. Ce n'est pas un psychiatre qui est rappelé en consultation, mais l'ambassadeur de France à Ankara, en urgence. Dans les querelles entre gouvernements, c'est un geste fort, comme claquer la porte. Au-dessus, il y a la rupture des relations diplomatiques, puis ensuite les diplomates débarrassent le plancher et les militaires entrent en scène. À l'évidence, la colère de l'Elysée n'impressionne pas Erdogan. Lui parle le langage du peuple, pas d'arabesque, des coups au but et s'il le faut, des coups de pied. Hier, il s'est donc répété, Emmanuel Macron est fou puisqu'il a promis que la France continuerait à défendre les caricatures du prophète Mahomet.
Erdogan n'est pas le seul à protester.
Non, il prend la tête d'un mouvement car il se prétend le champion de l'islam sunnite qu'il veut régenter jusqu'en France. Et depuis vendredi, les appels au boycott des produits français sont suivis au Koweït, au Qatar, en Irak, relayés par les réseaux turcs. Il y a eu des petites manifs en Libye, en Israël, en Tunisie, en Syrie, à Gaza, qui n'ont pas rassemblé grand monde, mais qui prouvent que les islamistes mobilisent. Le Premier ministre du Pakistan déclare qu'Emmanuel Macron a insulté l'islam. Un ministre jordanien le déplore. Le Hezbollah le dénonce. L'organisation de la conférence islamique s'étonne du discours présidentiel qui pourrait nuire aux relations franco-musulmanes. Oui, franco-musulmanes, comme si l'islam était une nation.
Oui, il y a beaucoup de confusion.
Quand il rentrera à Ankara, l'ambassadeur aura du pain sur la planche pour faire comprendre ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine et dans la cour de la Sorbonne. C'est la liberté souveraine des Français de dire « je suis Charlie Hebdo ». Mais insulter l'islam n'est pas devenu la religion officielle. Identifier la République à Charlie Hebdo était sans doute maladroit car ce dessin qui choque les musulmans, pieux, sont pain béni pour les islamistes. Ils tentent de faire basculer l'opinion en démontrant que la France est dans la provocation, le mépris, la haine. Et c'est vraiment à ça que joue Erdogan.
Merci Vincent Hervouet, on va en reparler avec mon invité à 7h40. Ahmet Ünsal, je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas non plus un supporter de Recep Tayyip Erdogan que vous entendez. Vous entendrez tout à l'heure sur Europe 1 dans le tête-à-tête. Merci Vincent. À suivre, on prend des nouvelles d'Hugo Gaston. Qui vous a fait, qui nous a fait rêver en huitième de finale de Roland-Garros? Difficile retour à la vie normale. L'édito sport de Virginie Fulpin, tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Hugo Gaston a épaté la galerie il y a 3 semaines à Roland-Garros. Ce week-end, il a repris sa raquette au petit tournoi Challenger d'Hambourg. Un autre monde, et pour vous, c'est aussi ça le sport, Virginie Fulpin, une leçon d'humilité permanente.
C'est comme goûter à la vie de château pendant 10 jours avant de revenir à un quotidien beaucoup moins rose. Il y a 3 semaines, Hugo Gaston est né aux yeux du grand public. Il s'est fait connaître en l'espace de 2 matchs dantesques à Roland-Garros. Une victoire époustouflante contre Stan Wawrinka et une défaite héroïque contre Dominic Thiem. Tout le monde était aux petits soins pour lui. Son nom alimentait les discussions passionnées. Hugo Gaston était même votre invité, Mathieu, comme Novak Djokovic une semaine avant lui quand même. Il y a de quoi avoir la tête qui tourne, même si ce n'est pas vraiment le genre de la maison. Et d'un seul coup, bah, le carrosse se transforme en citrouille. Alors je sais bien qu'Halloween approche, mais c'est quand même difficile pour un sportif qui vient de toucher son rêve du doigt de se remettre à batailler dans l'anonymat. Quand vous venez d'inquiéter un des meilleurs joueurs du monde devant la France entière et que vous vous retrouvez à perdre contre un Allemand 267e mondial au dernier tour des qualifications du petit tournoi d'Hambourg, c'est une des plus belles leçons d'humilité que peut offrir le sport. Même si prendre la grosse tête a l'air d'être un risque très limité hein, chez Hugo Gaston.
Ce retour aux sources, ça fait partie de l'apprentissage ?
Ben oui, il en est bien conscient, Hugo Gaston. C'est ça mon quotidien, dit-il, en parlant des tournois Challenger. Pas les grands chelems. Une carrière de sportif de haut niveau, c'est pas linéaire. Hein. Surtout au début, c'est plutôt les montagnes russes que le long fleuve tranquille. Hugo Gaston ne peut pas jouer que les meilleurs tournois, son classement ne lui permet pas. Et tant mieux, en fait. C'est justement en reprenant contact avec cette autre réalité du sport qui va progresser. Si je veux être très concrète, à Roland-Garros, son huitième de finale lui a permis d'empocher 189 000 euros. En perdant hier à Hambourg, il aurait dû repartir avec 225 euros. C'est pas exactement la même chose. Hein.
Pas bon, les mêmes projets d'aménagement à la maison.
Bon, alors finalement, avec le forfait d'un joueur, Hugo Gaston a été repêché, c'est-à-dire qu'il va disputer le premier tour de ce tournoi aujourd'hui. Vous voyez que j'exagère pas quand je parle de montagne russe. Hein. Mais revenir à la base, ça ne peut que le pousser à se dépasser. Hugo Gaston a vu son rêve se concrétiser il y a 3 semaines, mais il sait qu'il doit repartir au combat, inlassablement. Et je trouve que ça fait partie des vertus du sport, cette remise en question permanente, même si c'est un peu douloureux.
Même si c'est un peu douloureux, mais lui était très lucide pour le coup. C'est vrai, quand on lui a posé ces questions-là au lendemain de sa défaite en huitième de finale, il faut repasser par là, de la terre battue à la terre ferme, Virginie Fulpin,
ouais, l'édito sport. C'est Roland-Garros, c'est pas son quotidien.
Merci beaucoup, il est 7h24. Et tous les matins, juste après l'édito sport, on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour mon cher Mathieu, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs comme vous ont profité du week-end ou des vacances de la Toussaint pour voir la famille, quoi qu'il en soit. Ce matin, j'aimerais évoquer avec vous l'expression « les cousins germains ». Sachez que cela n'a aucun rapport avec nos amis germaniques, les Allemands. Non, les Allemands n'y sont pour rien.
Oui, les cousins germains, ce sont les personnes de notre famille avec qui on a un grand-parent en commun. Et issus de germains, les personnes avec qui on a un arrière-grand-parent en commun.
Absolument, Mathieu. Et tout est une question d'étymologie. Germain vient du latin germanus. Germen, c'est le germe. Avec le suffixe anus, cela signifie qui est du même germe. Au XIIe siècle, germen donnera par exemple en espagnol hermano et hermana pour dire frère et sœur. Vous voyez, tout s'explique. Alors que quand on parle des germains pour désigner les Allemands, germain vient d'un autre mot, de deux mots celtes, guerre, qui veut dire voisin, et man, qui signifie peuple. C'est littéralement le peuple voisin.
On pourrait disserter sur le fait que guerre veut dire voisin. Bon, revenons à nos cousins. Comment est-ce qu'on dit dans les autres pays ?
Alors, en anglais, Mathieu, on dira first cousin, le cousin de premier degré. En Roumanie, on parlera de cousin doux, et D-O-U-X. Et à Montréal, on utilisera l'expression poétique de cousin de la fesse gauche pour désigner tout membre de la famille au sens le plus large du terme.
Stéphane, on va vous retrouver tout à l'heure entre 16h et 18h avec Mathieu Noël.
Exactement, avec un programme alléchant. Aujourd'hui, on réunit 3 espions qui n'auraient jamais pu se croiser. L'incontournable Matahari, Ian Fleming, le créateur de l'espion James Bond 007, qui était lui-même espion, et un espion moins planqué, mais peut-être le plus redoutable de tous, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook et Instagram. Il sait tout sur tout, et même sur vous, Mathieu.
Oui, sur vous aussi, Stéphane.
Oui, j'en suis sûr. On vous raconte l'histoire sans se cacher avec Mathieu Noël. C'est tout à l'heure, 16h-18h sur Europe 1.
Merci beaucoup, Stéphane Bern. Il est 7h26. Vous restez avec nous. Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, un nouveau journal à 7h30.
Oui, les derniers virages pour Michael Schumacher, ici, qui est en tête depuis le départ, qui s'est illustré sur tous les circuits du monde, qui va recevoir le drapeau à damier dans un instant. Voilà qui est fait, la victoire de Michael Schumacher.
Les commentaires de l'historique d'Europe 1, Dominique Bressot en 2004, ça vous avez pu l'entendre, 91 fois, 91 Grands Prix remportés par Michael Schumacher. Eh bien ça y est, il a un successeur qui l'a dépassé, Lewis Hamilton. Et c'est à suivre dans le journal de Sophie Hachène, à tout de suite. Il est 7h29 sur Europe 1 et nous sommes avec Laurent Cabrol pour la météo.
Et comme dirait notre ami Stéphane Bern, aujourd'hui c'est de la pluie et entre la pluie continue et la pluie sous forme d'averse, c'est le cousinage à la fesse gauche. Et nous allons vivre une journée de pluie sur les Alpes, la Provence, la Côte d'Azur, la Corse, des pluies fréquentes, des orages ailleurs, des pluies un peu plus ténues. Allez, sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Massif central, le Midi-Pyrénées seront un peu plus espacés. Dans le sud-ouest, un peu de pluie, pluie, un peu de soleil. Sur la Manche et l'Atlantique, comme sur la Vallée de la Loire et de Poitou-Charentes, attention aux orages dans le courant de l'après-midi. Et puis, un endroit, une poche de résistante sur le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le Morvan, le Berry et la région parisienne. Là, on résiste un petit peu à la pluie et il y aura pas mal de soleil dans ces contrées. Température, attention, j'entends petite baisse, nous perdons 2 degrés par rapport à hier.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
La maire de Lille s'était félicitée d'avoir obtenu un report des mesures justement permettant de limiter la propagation. Tout n'a pas été fait en temps et en heure pour essayer d'éviter ça.
La gestion de l'épidémie de coronavirus a-t-elle été trop laxiste à Lille? Coup de projecteur sur la métropole où les contaminations explosent plus que sur le reste du territoire français. Nous irons en Allemagne où les élèves reprennent le chemin des classes aujourd'hui avec une nouvelle sorte de geste barrière à appliquer. La justice se penche sur le sort de la mosquée de Pantin. Aujourd'hui, Gérald Darmanin avait exigé sa fermeture après l'assassinat de Samuel Paty. Et puis un pas de plus dans la légende, 92e victoire pour Lewis Hamilton, qui détrône ainsi le baron rouge, Michael Schumacher.
À quoi joue le président turc lorsqu'il conteste la santé mentale d'Emmanuel Macron? Mon invité après ce journal, Ahmet İnsel, intellectuel turc, auteur de La Nouvelle Turquie d'Erdogan, invité du tête-à-tête Europe Matin. Tandis qu'en France, on entend enfin les voix de l'islam modéré. C'est l'édito politique de Catherine Ney, juste avant Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, je reçois Sarah Elaï, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous partons d'abord en Allemagne, où les élèves reprennent le chemin des classes aujourd'hui, après 2 semaines de vacances. L'épidémie, elle, n'a pas pris de congé. La barre des 10 000 morts a été franchie ce week-end. Alors ce matin, la rentrée sera un peu particulière.
Oui, pour pouvoir accueillir les écoliers, les établissements devront aérer les salles plusieurs fois par heure. Alors en cette saison, en plus de leur manuel scolaire, les élèves vont emporter des vêtements chauds dans leur cartable. Hélène Kohl.
L'école reprend en Allemagne, mais pour combien de temps? Nous n'avons pas d'informations, déplore Linda, institutrice à Berlin. La seule consigne qui a été donnée, il faut ouvrir les fenêtres régulièrement, quelles que soient les températures extérieures. Le protocole sanitaire est très strict, explique-t-elle.
On nous a bien fait comprendre qu'il faut aérer pendant la classe, entre 3 et 5 minutes, toutes les 20 minutes, et à la fin de chaque heure de cours. Pendant la pause, on ouvre de nouveau, en grand.
Certains établissements ont mis en place un système de sonnerie pour rappeler ce nouveau geste barrières aux enseignants et les parents d'élèves ont été priés d'équiper leurs enfants en vêtements chauds. Apprendre au milieu des courants d'air, c'est une question d'habitude, témoignent ces élèves d'une classe professionnelle qui n'ont pas eu de vacances et qui ont testé le dispositif la semaine dernière.
Tout le monde garde son manteau, certains ont même des couvertures.
C'est vrai qu'il fait froid, mais si on est correctement habillé, ça va en fait.
Et si les salles n'ont pas de fenêtres qui s'ouvrent, alors les chefs d'établissement doivent condamner ces espaces et organiser les cours ailleurs. Un énorme défi logistique, car on estime que cela concerne 100 000 salles de classe dans tout le pays. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
En France, plus de 52 000 cas de Covid enregistrés au cours des dernières 24 heures. C'est un record. Le virus continue de gagner du terrain, notamment dans la métropole lilloise, qui détient un triste record, celui des communes où le taux d'incidence est le plus élevé de France.
7 communes de la métropole font partie des 10 villes les plus touchées par le Covid. Alors, pourquoi cette flambée de l'épidémie dans ce territoire? Élément de réponse avec Maximilien Carlier.
Tout a commencé, non pas à Lille, selon plusieurs spécialistes, mais au Touquet, sur le littoral. 80 étudiants lillois contaminés juste avant la rentrée scolaire. Bertrand Legrand, secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français.
Ce cluster du Touquet a été le point de départ de l'explosion dans le Nord-Pas-de-Calais, ça c'est très clair.
Car le virus s'est diffusé ensuite à leur retour, partout dans la métropole lilloise. Les soirées en appartement, le laisser-aller dans les gestes barrières. Et quand ça touche les plus précaires, comme par exemple à Roubaix ou à Tourcoing, ça devient incontrôlable.
C'est une famille modestes, en fait, elles vivent un grand nombre dans des petits appartements à 7, 8, 9. C'est une catastrophe parce que du coup, forcément, ils se le passent tous les uns les autres. Et à ce moment-là, en plus, ils sont dans des logements collectifs, donc forcément, ça se propage de voisin en voisin.
Autre facteur aggravant pour Mathieu Calafiore, médecin à Waterloo, c'est la gestion du Covid par Martine Aubry début octobre.
La maire de Lille s'était félicitée d'avoir obtenu un report des mesures justement permettant de limiter la propagation. Ben, je pense qu'on est en train de payer une partie de ce report-là maintenant, clairement. Tout n'a pas été fait en temps et en heure pour essayer d'éviter ça.
Et selon ce spécialiste, le couvre-feu ne changera pas grand-chose dans l'immédiat. Il a été mis en place bien trop tard. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue d'augmenter lui aussi, plus de 2500 en ce moment. Les deux tiers des lits dans ces services sont occupés dans les établissements d'Île-de-France.
7h34 sur Europe 1. Paris appelle les pays du monde musulman à cesser le boycott des produits français.
Alors que la tension continue de monter entre la Turquie et la France, le président turc Erdogan s'en est encore pris à Emmanuel Macron après ses propos sur l'islam et sur les caricatures du prophète, des propos tenus lors de l'hommage à Samuel Paty.
10 jours après l'assassinat de ce professeur d'histoire géo, le sort de la mosquée de Pantin est examiné aujourd'hui.
Après le drame, Gérald Darmanin avait annoncé sa fermeture. Le préfet de Seine-Saint-Denis avait alors pris un arrêté, mais les responsables du lieu de culte ont déposé un recours en référé liberté pour contester cette décision. Jean-Jacques Herry.
Chose rare cet après-midi, au tribunal administratif de Montreuil, il y aura un préfet. Car c'est Georges-François Leclerc, préfet de la Seine-Saint-Denis, qui défendra en personne son arrêté de fermeture. C'est dire si le symbole est fort, 10 jours après la mort de Samuel Paty. Devant le tribunal, il devrait insister sur plusieurs points qui motivent, selon lui, la fermeture. La diffusion sur la page Facebook de la mosquée de la vidéo du parent d'élève se plaignant de l'enseignant assassiné, d'abord, et également la présence d'un imam décrit comme radical au sein du lieu de culte. Autant d'arguments difficilement recevables pour maître Vincent Brengart, qui défend la Fédération musulmane de Pantin. Pour lui, c'est clair, les autorités veulent avant tout faire un exemple.
Il n'y a pas suffisamment d'éléments factuels pour pouvoir justifier une mesure aussi grave. Il peut exister un débat sur certains des points qui sont évoqués par la préfecture. Maintenant, la question est de savoir si on ne peut pas résoudre les problématiques autrement qu'en fermant la mosquée pendant 6 mois. Ce qui se pose, c'est le caractère disproportionné ou non de la mesure que devra trancher la juridiction administrative.
Et le tribunal devrait se prononcer dès ce soir, demain au plus tard.
Jean-Jacques Herry. Michel Fourniret va-t-il enfin avouer où se trouve le corps d'Estelle Mouzin ? Le tueur en série est convoqué dans les Ardennes cet après-midi avec son ancienne épouse Monique Olivier. Ils sont tous les deux attendus à Ville-sur-Lume, près de Charleville-Mézières. C'est là que Michel Fourniret aurait séquestré, violé et tué la fillette en 2003.
Et puis il avait égalé Michael Schumacher il y a 2 semaines. Lewis Hamilton vient de dépasser le Baron Rouge.
92e victoire en Formule 1 pour le Britannique à l'issue du Grand Prix du Portugal. Lewis Hamilton devient ainsi le pilote qui a remporté le plus de courses. Il entre un peu plus dans la légende. Axel May.
The record is broken. Lewis Hamilton wins.
Le speaker officiel de la Formule 1 s'enflamme alors que pour la 92e fois de sa carrière, le drapeau à damier est agité au passage de Lewis Hamilton. Depuis sa radio de bord, le Britannique remercie son équipe pour ce succès au Portugal et lâche quel travail fantastique. Le voici un peu plus installé dans le panthéon de la F1. À lui tout seul, il a autant de victoires que Senna et Prost réunis, et une de plus que Michael Schumacher. En Allemagne, il y a 15 jours, lorsqu'Hamilton avait égalé le record du Kaiser, Mick Schumacher lui avait offert un casque de son père. Hier, sur la ligne d'arrivée, c'est son propre père, Anthony Hamilton, qui est venu l'enlacer. Le pilote Mercedes se rapproche un peu plus d'une 7e couronne mondiale, exploit que seul Schumacher a réussi jusque-là.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Deux invités, deux voix que je veux vous présenter ce matin. Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et des Sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement, la lutte contre l'islamisme radical et cette idée d'une mobilisation générale, refaire corps, refaire nation. Comment mobiliser la jeunesse derrière les fondamentaux de la République ? Sarah El Haïry, jeune ministre, 31 ans, nouveau visage en politique, invitée d'Europe Matin à 8h15. Mais tout de suite, et c'est lié, ce discours de lutte contre l'islamisme politique est-il soluble dans la diplomatie, les insultes de Recep Tayyip Erdogan à la une. En langage diplomatique, c'est la guerre. Dans un instant, Ahmet İnsel, économiste, politologue turc, le tête-à-tête Europe Matin. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Recep Tayyip Erdogan conteste par deux fois, en public, la santé mentale d'Emmanuel Macron. La France rappelle son ambassadeur à Paris. Sur le terrain diplomatique, c'est la guerre. À quoi joue le président turc ? Mon invité, Ahmet İnsel, économiste, journaliste et politologue turc, auteur de La Nouvelle Turquie d'Erdogan, aux éditions La Découverte.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Ahmet İnsel.
Bonjour.
À quoi joue Recep Tayyip Erdogan ?
Il joue à une ferveur nationaliste à créer en Turquie, ferveur islamo-nationaliste, disons, parce qu'il y a la dimension nationaliste et la dimension religieuse. C'est une alliance qui est au pouvoir maintenant depuis très longtemps, mais qui s'est renforcée avec l'extrême droite nationaliste. Et c'est quelqu'un qui comprend toujours le langage de rapport de force. Donc, du coup, il porte au niveau international son discours qui est devenu quotidien au niveau de la la politique intérieure. À l'intérieur, il injurie tout le monde. Les opposants, s'ils le critiquent, ils sont immédiatement déférés devant les tribunaux. Ils ne supportent pas la critique, mais lui, il a une verbe fascisant, en fait. On retrouve un peu le discours des leaders fascistes des années du XXe siècle.
C'est précisément une question que je voulais vous poser. Ce qui s'est passé ce week-end pour Recep Tayyip Erdogan et pour les Turcs, c'est un enjeu de politique intérieure ou un enjeu de politique internationale ?
C'est les deux à la fois, parce que la politique internationale de Tayyip Erdogan est totalement liée à sa politique intérieure, qui est de se maintenir au pouvoir en 2023, lors des élections présidentielles. Et tout seul, il n'a plus les possibilités de passer la barre de 50%. C'est pourquoi depuis 3 ans, il a créé une alliance avec l'extrême droite nationaliste et avec des nationalistes laïcs qui ont des visées expansionnistes dans la région. Et donc, du coup, il a bâti une image de la Turquie forte, de la Turquie puissance régionale, de la Turquie qui va régner comme puissance régionale sur les anciennes terres ottomanes.
Et il se positionne, Erdogan, comme défenseur des musulmans contre un Occident chrétien.
En même temps, il est, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du nationalisme pur ethnique, c'est du nationalisme religieux en même temps. Donc, il se positionne sur la base d'une leadership du monde musulman dans la région, du monde musulman en général. Et c'est pourquoi, par exemple, il s'est offensé particulièrement de la phrase de Emmanuel Macron qui avait dit qu'il y avait un problème dans l'islam aujourd'hui. Et là, pour lui, dire qu'il y a un problème dans l'islam, c'est injurier l'islam, avilir l'islam, etc. Mais n'oubliez pas que c'est un président de la République d'un pays qui est soi-disant resté laïque, mais qui, le jour où il a transformé le musée Sainte-Sophie en mosquée, il a lu en tant que président de la République, dans Sainte-Sophie, un sourate du Coran, le sourate de conquête du Coran. Alors évidemment, il se positionne à la fois comme chef politique, mais en même temps un chef religieux quasiment.
Oui, alors il y a eu ces appels au boycott contre la France dans le monde musulman. Il ne faut pas les exagérer, hein, mais il y en a eu évidemment en Turquie, au Qatar, en Arabie Saoudite. Je cite les officiels français, il y a une campagne islamiste contre la France, très organisée, elle n'est pas le fait du hasard. Les émetteurs sont très largement turcs. Est-ce que Recep Tayyip Erdogan peut organiser cela au-delà de ses frontières ?
Il peut organiser au niveau des ondes d'influence. Il peut organiser, par exemple, s'il organise à Qatar, ce sera pas très étonnant parce qu'il y a une alliance très forte entre Qatar et le cheikh de Qatar et Erdogan.
Mais entre la France et le Qatar aussi, normalement.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, l'organisation se fait au Liban, en Jordanie. Il a des réseaux, mais comme les observateurs le disent, pour le moment, ce n'est pas un mouvement organisé nationalement dans chacun des pays, mais il a des réseaux d'influence. Il faut pas oublier. D'abord, il a les réseaux d'influence des frères musulmans, parce qu'il est quand même proche des frères musulmans, sans être membre des frères musulmans, mais il est proche. La plupart des leaders des frères musulmans, désormais, sont à Israël. Istanbul, en Turquie, et les réseaux qu'il a dans Algérie, dans Jordanie, dans Liban, au Qatar ou en Azerbaïdjan, pourraient avoir des répercussions locales, peut-être pas nationales, mais locales.
Il faut être précis, hein, quand on parle du Qatar, de l'Arabie Saoudite, ce ne sont pas les États qui appellent au boycott. Cela dit, on le racontait ce matin, le ministre des Affaires étrangères marocain, la liberté d'expression ne saurait sous aucun motif justifier l'offense injurieuse de la religion musulmane. Imran Khan, le premier ministre du Pakistan, qui accuse Emmanuel Macron d'attaquer l'islam. Ces discours-là, et je pense évidemment à Erdogan en premier, est-ce que ça peut parler aux musulmans de France, aux musulmans européens ?
Écoutez, moi, je suis pas très croyant et pratiquant, donc je ne peux pas parler en leur nom. Il est possible que ça parle, évidemment, pour une partie, en tout cas, radicalisée et qui se sentent offensés par le discours de Emmanuel Macron. Il est possible qu'il y ait une certaine offense, mais la critique au niveau diplomatique, ne peut pas être dans la manière dont, que Tayyip Erdogan le fait, c'est-à-dire accuser le santé mentale, etc. etc. Il pourrait parfaitement émettre des critiques vis-à-vis de cette expression qu'il peut trouver excessive de Tayyip Erdogan, mais de Emmanuel Macron. Mais au niveau des musulmans de France, là, il faut plutôt demander à des pratiquants musulmans pour pouvoir juger de leur perception.
Alors, à la fin du mois d'août, vous disiez, je vous cite vous, hein, Erdogan est dans une dérive totalitaire. À la fin du mois de septembre, vous disiez, Erdogan a atteint son objectif, créer une surenchère nationaliste. Fin oui. octobre, vous dites quoi ? Fallait l'arrêter plus tôt ?
L'arrêter plus tôt, si vous voulez, peut-être, mais comment l'arrêter ? C'est, l'Union européenne n'a pas les moyens d'une politique extérieure. Vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des États-Unis, Erdogan est toujours plus attentif parce que la Russie, quand il y a un désaccord, malheureusement, envoie un avion de chasse et en Syrie, il règle son problème
mais
autrement.
Je voudrais juste rappeler, vous le savez, mais je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que nous sommes alliés de la Turquie dans l'OTAN.
Au sein de l'OTAN, oui, bien sûr. Et plus qu'alliés de l'OTAN, la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe, la Turquie fait partie de l'OCDE. La Turquie est un pays membre candidat à l'adhésion à l'Union européenne, même si c'est quelque chose qui est définitivement
ça paraît de plus
enterré.
En plus... oui, voilà.
Mais la Turquie est membre de l'OTAN, hein, c'est vrai, c'est quelque chose qui est abracadabrant. Mais la Turquie, en tant que membre de l'OTAN, est en conflit aussi avec les États-Unis au niveau d'achat d'armement aux Russes, des fusées aux Russes qui sont incompatibles avec l'armement de l'OTAN. La Turquie aujourd'hui est un pays très isolé. Malgré ses efforts extrêmement d'expansion, de disposition, etc., est un pays isolé puisqu'il est en conflit avec ses alliés de l'OTAN. Il est en conflit potentiel avec la Russie. Aujourd'hui, la Turquie est en face à face avec la Russie en Syrie, en Libye et désormais en Caucase, dans le conflit arméno-azerbaïdjan. Et la Turquie est relativement isolée dans les pays arabes, musulmans aussi. Il ne faut pas oublier. Tayyip Erdogan essaie de se positionner comme le leader du monde musulman, mais en même temps, les leaders du monde arabe, la plupart, par exemple l'Arabie saoudite, aujourd'hui, organisent des boycotts des produits turcs.
Merci Ahmet İnsel. Merci beaucoup.
Bonne
c'est
journée.
Extrêmement compliqué. On essaie d'y voir plus clair et grâce à vous, on avance ce matin. La nouvelle Turquie d'Erdogan, c'est votre dernier ouvrage aux éditions de la Découverte, politologue, journaliste, économiste turc. Ahmet İnsel en direct, le tête-à-tête Europe Matin, 7h48. En France, enfin, des voix de l'islam modéré se font entendre. C'est l'édito politique de Catherine Ney avant de retrouver Nicolas Canteloup. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
Tout de suite, retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'édito politique, le dimanche 11 janvier 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo, plus de 4 millions de personnes avaient défilé en France en hommage aux victimes des terroristes. Il y avait eu peu de musulmans, disait-on, on n'avait pas entendu les imams. Après l'assassinat de Samuel Paty, beaucoup d'imams sont sortis de leur silence pour condamner cet acte barbare. Une prise de conscience.
Absolument, oui. Il est vrai que depuis Charlie Hebdo, la litanie des crimes islamistes s'est allongée. Mais cette fois, trop, c'est trop. Décapiter un professeur qui enseignait la tolérance et le vivre ensemble menace la cohésion nationale et c'est dangereux pour tout le monde, autant les musulmans que les non-musulmans.
Le Conseil français du culte musulman et le recteur de la mosquée de Paris ont réagi.
Et tous dans le même sens, en demandant aux imams de dénoncer dans leur prêche cette barbarie qui n'est pas l'islam, disait-il, d'inviter les fidèles à prier pour le professeur Paty, un martyr de la liberté. Et les reportages ont montré certains sortant de la mosquée, bouleversés, pleurant même, et tous les prêches sont allés dans le même sens. L'islam désavoue les fanatiques barbares. À Cherbourg, des musulmans ont défilé pour Samuel Paty, pour la République et ils portaient le drapeau bleu-blanc-rouge.
Plusieurs imams déclarent publiquement que le terrorisme islamiste, ce n'est pas l'islam.
Oui, et dans une interview au Point, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz, un avocat franco-algérien, constate la montée en puissance d'un enseignement sauvage de l'islam dans des écoles coraniques où se déploie l'endoctrinement d'imams proclamés. Et c'est là d'où vient le danger. Depuis qu'il a succédé à Dalil Boubaker, aux 60 imams rattachés à la Grande Mosquée, il apprend à croiser croiser le fer avec les islamistes, répondre à leurs critiques, mieux connaître le Coran. Ils le reconnaissent, il y a des versets qui légitiment un acte terroriste, d'autres contestent ce comportement. Autrement dit, il faut regarder les choses avec les deux yeux, ne pas être borgne.
De belles paroles selon vous, Catherine. Maintenant, dites-vous, il faut des actes.
Alors, Emmanuel Macron veut organiser le culte musulman. Le problème, c'est que chaque imam interprète l'islam comme il le veut. Il n'y a pas de conseil de l'ordre du culte. Créer un label de formation des imams, aider le culte à se structurer, c'est un défi. Il a confié cette mission au Conseil français du culte musulman, lequel est confronté à des divisions nationales, Algérie, Maroc, Tunisie. Mais si l'État ne peut pas ne rien faire, en tout cas, il ne peut rien faire sans leur concours.
Merci Catherine Ney, l'édito politique. Il est 7h53.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup, coach, conseille l'invité politique à sa manière. À 8h15, je reçois Sarah El Haïry et c'est Jean Castex qui est venu la coacher.
Oui, bonjour, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à Madame Catherine Ney, que j'écoute régulièrement. Alors Monsieur Béliard, vous m'avez fait venir donc pour coacher.
Sarah El Haïry.
Voilà, très bien. Samuel R. Haïry. Sarah El Haïry. Qui exerce donc dans le domaine de... Non, parce que je ne connais pas cette dame. Je me demande donc ce que je fais ici parmi vous. Mais remarquez, à Matignon, je dois vous dire que je me demande aussi ce que je fais là-bas. Madame Catherine Ney me taquine et aussi elle se demande ce que je fais à Matignon.
C'est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et des Sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement.
Oula, dites donc, tout cela, ça doit faire des cartes de visite bien chargées, hein, n'est-ce pas?
Pardon, c'est François Bayrou.
Sarah El Haïry.
Ça commence à m'énerver qu'on ne connaisse pas Sarah El Haïry, la Kylian, il faut le dire, la Kylian Mbappé du MoDem. Je dis vas-y ma Sarah et oublie pas de parler de moi. C'est fou ça Jean, je me demande ce que tu fous Premier ministre.
Ah mais je dois te dire François que moi aussi.
Bon. C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours à 7h55. On vous retrouve à 9h moins le quart pour la revue de presse que Nicolas. Ce matin donc Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et des Sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement. Comment refaire corps? Comment refaire nation? Cette jeune ministre, 31 ans, vous ne la connaissez peut-être pas, on vous la présente à 8h15. Europe 1. 7h58, Laurent Cabrol est avec nous.
Il y a quelques vénards aujourd'hui dans France. Ceux qui habitent le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le Morvan, le Berry et la région parisienne. Vénards parce qu'ils auront les meilleures éclaircies, elles sont pour eux. Et donc vous allez pouvoir en profiter. Ailleurs, c'est de la pluie, alors des pluies fortes. Hein. Sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Massif central, le Midi-Pyrénées, elles seront un petit peu moins fortes. Mais sur les Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, elles seront orageuses et donc souvent violentes. À Lyon, je pense que ce sera mieux cet après-midi. Hein. Dans le sud-ouest, il pleut encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Et sur la Manche et l'Atlantique, comme le Poitou-Charentes, des orages et des averses, mais après le repas, à l'heure du goûter, pratiquement. En ce qui concerne des températures, températures, allez, un coup d'œil. 30 à 17 degrés, 13 à 17 degrés.
Oui, 30, bon ça fait beaucoup pour la saison.
Oh, ouais, je rêvais. 15 à Paris, 15 à Laval et 17 à Marseille. Voilà, il me reste encore un petit peu de temps. Alors, mardi, demain, de la pluie sur la moitié nord et beaucoup de nuages sur la France. Mercredi, un petit peu mieux avec beaucoup moins de pluie, mais encore des nuages. Et ensuite, ça va aller mieux jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je crois que la Toussaint sera très douce.
On n'aura pas 30 degrés non plus.
Non,
faut pas rêver, mon cher Laurent. Non. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Je suis en main d'ordre.
Ces derniers temps, le président français est ébranlé. Il est obsédé par Erdogan, jour et nuit. C'est un cas mental. Il a donc vraiment besoin de subir des examens.
L'escalade verbale du président turc, attaque personnelle contre Emmanuel Macron, dégradation des relations franco-turques et mouvement anti-français dans certains pays musulmans. Des produits venus de France sont boycottés. Quelles conséquences? Réponse dès le début du journal. La deuxième vague du coronavirus est là et elle frappe fort. Plus de 50 000 nouvelles contaminations rien que sur la journée d'hier. Comment la juguler? traquer. Certains scientifiques plaident pour une autre méthode de traçage prisée dans les pays asiatiques, on vous explique. Dans ce journal, l'appel à l'unité nationale 10 jours après l'assassinat de Samuel Paty. Comment ce message passe-t-il auprès des plus jeunes, notamment dans les quartiers populaires? Nous avons voulu le savoir. Et puis carnet de campagne du scrutin présidentiel américain, 8 jours avant l'élection. Aujourd'hui, les banlieues résidentielles vont-elles faire basculer le scrutin? Les deux camps leur font du charme.
Juste après ce journal, la France sur plusieurs fronts. Le front sanitaire avec la crainte d'un reconfinement, le front diplomatique avec les insultes du président turc et la lutte contre l'islamisme radical. Comment mobiliser la jeunesse? Mon invité à 8h15, Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Vous écoutez Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un cran est bien franchi ce matin dans les relations déjà tendues entre France et Turquie. Vous l'avez entendu, le président Erdogan a mis en cause 2 fois en moins de 48 heures la santé mentale d'Emmanuel Macron.
Réponse du président français hier soir sur Twitter. Rien ne nous fera reculer, jamais. Référence aux caricatures auxquelles la France ne renoncera pas, selon les mots d'Emmanuel Macron la semaine dernière lors de l'hommage national à Samuel Paty.
Conséquence, la naissance d'un mouvement anti-français dans certains pays musulmans. Des appels sur les réseaux sociaux au boycott de produits français, des fromages, des confitures, des produits cosmétiques sont ainsi retirés des rayons des magasins au Koweït ou encore au Qatar.
Bonjour Olivier Samin.
Bonjour Mathieu.
Ce boycott ne concerne pour l'heure que quelques pays. Mais s'il prenait de l'ampleur, est-ce que cela pourrait nuire à nos exportations en Turquie déjà ?
Eh bien en Turquie, le risque est assez faible car la France y exporte peu de produits de consommation courante. Nos ventes là-bas sont surtout des ventes de produits industriels. Airbus, pièces pour la construction automobile, produits sidérurgiques principalement. Et ces exportations ont nettement baissé l'année dernière, du fait de la crise économique que traverse la Turquie. Alors la question maintenant, c'est de savoir si une tension supplémentaire entre Ankara et Paris finirait par peser sur ces exportations de produits industriels français. Stéphane Salveta est secrétaire général de la Chambre de commerce franco-turque et vous allez l'entendre, il est serein. Ah, nous n'avons pas Stéphane Salveta qui dit qu'effectivement, il est serein. Il considère que les hommes politiques ont un discours, mais les milieux économiques, eux, continuent à faire ce qu'ils doivent
avec
faire.
Avec pragmatisme, si je vous suis bien, enfin si on devine bien ce que nous disait votre interlocuteur.
Alors, Olivier appelle au boycott surtout relayé dans les pays du Golfe et il concerne principalement des produits alimentaires de consommation courante.
Oui, alors on a vu des retraits de fromage Kiri et Babybel dans certains supermarchés au Koweït. Le ministre du Commerce extérieur français, Franck Riester, a évoqué hier soir des impacts à ce stade impossibles à chiffrer. Il y a encore un gros marché avec les pays du Golfe, c'est celui du poulet. La France en exporte 70 000 tonnes par an. Alors autrefois, c'était le groupe Doux, mais son activité a été rachetée par un groupe saoudien, le groupe Al Munajem, qui exploite l'usine de Châteaulin dans le Finistère et qui est aujourd'hui le seul exportateur de poulet français vers les pays arabes. Alors on peut tout imaginer évidemment, mais une entreprise saoudienne visée par les appels au boycott, le scénario est assez improbable.
Explication signée Olivier Samin. Et dans ce conflit fait rare, la France a rappelé hier son ambassadeur en Turquie.
8h03 sur Europe 1. Et sur le front du coronavirus, la deuxième vague est bien là et elle frappe fort.
52 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures en France. Chiffre record en une seule journée.
Les vacances sont-elles en cause? Tant de retrouvailles avec les parents, avec les grands-parents. Parfois difficile de respecter les gestes barrières.
Et c'est bien souvent entre proches que se transmet le coronavirus avec des conséquences parfois douloureuses. Marion Gauthier a rencontré une famille déchirée depuis des semaines par le virus.
Voilà presque 2 mois qu'Armand, 73 ans, ne voit sa sœur que par appel vidéo. Fin août, il est venu chez elle, à Paris. Un dîner, 6 personnes, et quelques heures plus tard, 4 présentent des symptômes.
Nous sommes rentrés en Ariège, vu notre âge, sachant que, éventuellement, ce sera le dernier jour de notre vie.
Armand et sa femme sont hospitalisés, lui en soins intensifs, elle en réanimation. Une lourde responsabilité pour Tahereh, la première au dîner à avoir contracté le virus.
Il y a eu des jours où j'avais très peur. Comme c'était moi qui a eu en premier, je me suis dit, c'est à cause de moi.
Une famille éprouvée. Aujourd'hui encore, la fille d'Armand doit s'occuper des courses et du ménage de ses parents en Ariège.
Moi, j'ai toujours passé, embrassé mes parents depuis qu'ils sont sortis de l'hôpital. Et c'est assez effrayant de se dire que c'est dans ce cercle intime et tellement plein de tendresse et d'affection qu'on risque sa vie.
Avant de raccrocher, ils se disent à une prochaine, quand il y aura un vaccin d'ici là pour eux. Plus aucune réunion en famille ou entre amis.
Et le nombre de malades en réanimation continue lui aussi de progresser. 2575 personnes, indique Santé publique France, pour une capacité totale pour l'heure de 5800 lits.
L'obsession des autorités, c'est de casser la chaîne, les chaînes de contamination. Pour l'heure, en France, on recherche les cas contacts après avoir identifié les malades. Mais nous voulions vous faire entendre ce matin sur Europe 1 la voix de ces scientifiques qui prônent une autre méthode très développée dans les pays asiatiques.
On l'appelle traçage à la japonaise. Alors de quoi s'agit-il ? Explication Pierre Herbulot.
La recherche du patient zéro. C'est l'objectif du traçage à la japonaise ou traçage rétrospectif. Contrairement à la méthode française, chercher les cas contacts d'un malade, l'idée là c'est de trouver par qui le malade a été contaminé.
C'est un peu comme chercher les ascendants au lieu de rechercher les descendants. Voilà.
La stratégie privilégiée en Asie, beaucoup plus épargnée par le virus, raconte l'épidémiologiste Catherine Hill.
C'est remarquablement fait en Corée du Sud, mais ils se sont pris correctement et ils ont énormément testé, ils ont énormément isolé et le virus a beaucoup moins circulé. Et donc eux, ils savent très bien qui a contaminé qui et qui a contaminé 230 personnes. Nous, on n'a jamais surveillé assez bien.
Interrogé sur la question, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se défend.
À chaque fois qu'on peut remonter au-delà de la chaîne de contamination, nous le faisons. Mais ne croyez pas que ce soit quelque chose où il suffit de claquer les doigts ou d'y mettre les moyens. Il y a des réponses que nous n'arrivons pas à avoir et que personne dans le monde n'arrive à obtenir.
Quelle que soit la stratégie, un point fait consensus dans le monde scientifique. Il est impossible de tracer correctement l'épidémie au-delà de 5000 cas journaliers quand la France dépasse largement les 30 000 par jour depuis le début de la semaine.
Et vous l'entendiez dans le journal de 7 heures sur Europe 1, épidémie galopante également chez nos voisins. Retour de l'état d'urgence sanitaire en Espagne jusqu'à début mai avec instauration d'un couvre-feu nocturne.
L'Italie ferme ses cinémas, théâtres, salles de gym à partir d'aujourd'hui et pour 4 semaines, bars et restaurants doivent arrêter le service à 18h.
8h07 sur Europe 1. Nous sommes ce matin 10 jours après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Les autorités appellent depuis à l'unité de la nation face au terrorisme.
Nous avons voulu savoir comment ce message était perçu par les jeunes musulmans dans les quartiers populaires. Certains ont le sentiment d'être stigmatisés. Reportage à Nantes du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
Le malaise dans le quartier de la Bottière à Nantes, comme après chaque attentat islamiste, beaucoup ici se sentent pointés du doigt, comme si l'ensemble de la communauté musulmane était coupable de la décapitation de Samuel Paty, Hamza, 16 ans.
Pourquoi accuser tous les musulmans alors que c'est un musulman qui a fait ça? Des fois, je me sens pas très français à cause des regards pour communiquer, pour vivre ensemble. Sinon, il n'y a pas d'unité. On n'avance pas. On est bloqué.
Dans ces périodes de forte tension, certains font tout pour mettre de l'huile sur le feu, fulmine Adama, d'origine mauritanienne. Ne tombons pas dans le piège de la division.
Je suis inquiet par toute cette ambiance. On voit bien que ça se sépare. Ce qui est négatif, c'est quand les gens ont une certaine haine. Ces gens qui font ces actes barbares, ça les arrange bien qu'il y ait une sorte de guerre civile. C'est peut-être ça leur objectif. En tant que Français, dans ces moments, il faut qu'on soit unis. On est avant tout des citoyens français. On est là pour le pays, on est là pour faire avancer les choses. Continuons à nous souder et à lutter ensemble. C'est important de se retrouver autour de la patrie. On est tous du même pays.
Dans le quartier du Breil, une jeune fille désabusée s'interroge. Serons-nous vraiment des Français comme les autres un jour? Je n'y crois plus. Nantes, François Coulon, Europe.
Au-delà des mots, hein, merci François Coulon, au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire refaire nation? Ce vocabulaire employé par le président de la République. Nous étions à Nantes, ville où est élue mon invitée, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, juste après ce journal.
Et maintenant, partons aux États-Unis.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour.
Comme tous les jours, à 8h, votre carnet de la campagne présidentielle jour J, mardi de la semaine prochaine. Vous sillonnez cette semaine, Théo, les États clés du sud-est du pays, ces États qui peuvent faire basculer un scrutin à la Caroline du Nord ce matin près de Charlotte.
Et on sera attentif au vote des banlieues résidentielles très courtisées entre des villes essentiellement pro-Biden et des campagnes pro-Trump. Justement, Théo, les Républicains, chaque jour un peu plus, redoublent d'efforts.
Eh oui, car ici en Caroline du Nord, les études montrent que le soutien au parti du président est passé dans ces rues pavillonnaires aux maisons bien rangées de 54% il y a 4 ans à moins de 40% aujourd'hui. Alors jusqu'au bout, c'est tractage et porte à porte, une prière et les équipes de Sonia Nichols se répartissent les allées de ce quartier typique de ce qui est en train de se jouer.
Ici, c'est un tiers d'électeurs démocrates, un peu moins d'un tiers de républicains et 37% de non-affiliés. Vous voyez, on a tous ces petits points-là.
Sur son téléphone, une application. Aux États-Unis, quand on s'enregistre sur les listes électorales, on peut donner sa couleur politique.
Ça signale les maisons de tous les électeurs républicains et non affiliés. Donc chacun de ces petits points, on y va. S'il n'y a pas de points, c'est une maison démocrate. On n'y va pas. Le tract finira à la poubelle.
Première maison, bonne pioche. Ce jeune homme votera Trump.
Avec toutes les émeutes qu'on a vues, je pense qu'il faut soutenir la police, pas lui couper des financements.
La loi et l'ordre, le slogan de Donald Trump a imprimé, sauf auprès d'un type d'électeur clé, ou plutôt une électrice. Suburban women, will you please like me? Les femmes de banlieue, électorat encore plus décisif selon les analystes. Allez-vous m'aimer, les a suppliés Donald Trump récemment, bien conscient qu'il est en train de les perdre. I saved your damn neighborhood, okay? J'ai sauvé vos quartiers des émeutes, martèle-t-il, mais peine perdue pour convaincre Shannon sur le pas de sa porte.
J'ai une fille et une petite fille et je ne veux pas qu'elle soit représentée par quelqu'un qui ne respecte pas les femmes à ce point. Il parle très mal et si on n'est pas d'accord avec lui, on est une sale vicieuse. Comment est-ce qu'on peut le soutenir? Je n'ai pas de parti, j'ai voté pour des républicains dans le passé, mais là je vote démocrate.
Exactement ce que redoutent les soutiens du président en cette fin de campagne. Il me complique grandement la tâche, soupire Sonia Nichols, qui brigue aussi un poste au Sénat ici et qui craint que l'effet Trump, comme elle l'appelle, ne coûte non seulement la Maison Blanche à son parti, mais aussi la majorité au Congrès.
Théo Manval, tous les jours à 8h, vos reportages détaillés, photos à l'appui à retrouver sur europe1.fr et ne manquez pas le journal de campagne de notre correspondant Xavier Yvon tous les soirs à 19h.
Hey Mathieu, séquence nostalgie pour conclure ce journal, c'est quelques notes, vous rappellent peut-être quelques souvenirs.
Imbattable au blind test.
Mario Bros,
évidemment.
L'un des jeux vidéo les plus connus du monde. Première version sortie sur Nintendo en 1985, vendue à plus de 40 millions d'exemplaires. Le célèbre plombier bénéficie d'un coup de jeune, un nouveau jeu très inspiré de l'ancien. Et la nostalgie des joueurs quarantenaires est comblée. C'est une tendance, mais il faut dire Clément Le Saffre, c'est aussi bon pour le business.
It's me, Mario!
C'est le plus célèbre des héros de jeux vidéo. Mario vient de fêter ses 35 ans, un peu jeune pour un lifting, mais Nintendo a remasterisé trois jeux du plombier moustachu, notamment Super Mario 64, sorti en 1996 et très aimé des fans, mais plus du tout accessible de nos jours car la Nintendo 64, tout comme les autres vieilles consoles, n'est plus en vente. Super Mario, mais aussi Final Fantasy, Mafia, Resident Evil, tous ces jeux des années 90-2000 ont bénéficié d'un remake cette année. Graphisme modernisé, nouveau moteur de jeu, scénario enrichi, c'est un processus technique complexe, mais qui reste moins coûteux que la création d'un nouveau jeu, Alex Cox, responsable créatif du remake de Mafia.
Faire le remake nous a pris 2 ans. Pour un jeu original, ça aurait pris 1 ou 2 ans de plus. En faisant un remake, on apporte un jeu avec une superbe histoire à un nouveau public et ça nous coûte beaucoup moins cher. C'est un gros jeu produit pour le coût d'un plus petit jeu.
Des jeux moins chers, mais pas moins lucratifs. Un remake permet de séduire à la fois les joueurs de la première heure et les plus jeunes qui n'ont pas connu les jeux de leurs parents. Un phénomène qui va s'amplifier l'an prochain. On attend déjà des remakes de Prince of Persia et même de Pokémon.
Clément Le Saffre pour Europe 1.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix, c'était le journal de 8h. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous ne connaissez peut-être pas mon invité à suivre. On va vous la présenter. Entré au gouvernement l'été dernier, jeune ministre, 31 ans, jeune en politique, et déjà un dossier qui fait la une. Comment mobiliser la jeunesse dans la lutte que le président veut contre l'islamisme radical? Comment refaire corps, refaire nation? Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et des Sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement, dans une minute sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16, l'interview politique d'Europe Matin. Je reçois ce matin Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Une voix du gouvernement français ce matin. Ce matin, la France et la Turquie sont-elles toujours des alliés?
Ce matin, il y a des actes outranciers d'Erdogan. Il y a des actes violents, inacceptables et intolérables. Et ce matin, je me dis pauvre Turquie, qui, par la voix de son leader, souille une partie de son histoire.
La Turquie, alors je vais vous poser la question autrement, puisqu'on est toujours ensemble dans l'OTAN, mais la Turquie est-elle un adversaire dans la lutte contre l'islamisme radical?
En tout cas, ce n'est pas un allié franc, si on peut l'exprimer comme ça. Et c'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rappelle notre ambassadeur pour un temps particulier. C'est un signe fort, c'est un signe qui appelle des actions.
Alors, en langage diplomatique, c'est quasiment une déclaration de guerre.
En langage diplomatique, c'est-à-dire que ça illustre une colère, un refus. Et le fait que la Turquie est allée beaucoup trop loin, elle aiguise la violence, elle aiguise des discours haineux contre notre pays. Ils poussent à l'amalgame, ils sont clairement en offensive contre nous.
Ils sont en offensive contre nous. La France demande officiellement à ce que les boycotts, les appels au boycott cessent. Pourquoi prennent-ils la parole aujourd'hui ? Je veux dire, ça fait 5 ans qu'on affirme Charlie Hebdo, qu'on défend les caricatures, la liberté d'expression, le droit au blasphème. Pourquoi est-ce que le gouvernement français est attaqué de la sorte aujourd'hui ?
Parce qu'aujourd'hui, nous réaffirmons avec force et avec fermeté, parce que nous sommes dans une période où nous faisons corps, où le président de la République appelle à l'unité, et notre pays est en train de s'unir, de se réunir, de se ressaisir face à cette lutte. Parce que plus que jamais, notre idéal est attaqué, parce que l'école est attaquée, parce que cet idéal républicain d'égalité, de liberté et même de fraternité est aujourd'hui souillé. Et parce que, pour certains, c'est finalement la contre-offensive de notre pays qui est en train de se saisir. Alors, ils réagissent et ils veulent nous faire une guerre économique, parce que c'est ça un boycott. Ils appellent à nous affaiblir par l'extérieur et par l'intérieur. Eh bien, nous répondons par l'unité. Nous répondons en faisant bloc et nous répondons, vous savez, Monsieur Béliard, en disant « La France est au-dessus de tout ça. Ce qui nous unit est bien au-delà de tout ça. Et c'est pour ça que nous ne nous céderons pas, nous n'avons pas peur et nous mènerons à l'inverse cette guerre ». Également parce que ce que nous portons, c'est un idéal, républicain.
Je vous écoute attentivement et c'est précisément ce dont on va parler, mais ce que vous dites très clairement ce matin, c'est que nos adversaires, ce sont eux.
Nos adversaires, ce sont les prêcheurs de haine. Ce sont tous ceux qui...
Dont fait partie Recep Tayyip Erdogan.
Écoutez, c'est pour ça, il y a une situation diplomatique gravissime, outrancière, et il y a des réponses à apporter. Mais aujourd'hui, clairement, ce n'est pas des propos d'alliés que nous avons entendus.
Dans cette lutte, justement, contre l'islamisme radical, vous l'avez évoqué, le président de la République appelle à refaire corps, refaire nation. Ça veut dire quoi, refaire nation ?
Refaire nation, c'est s'unir, c'est défendre... nos essentiels, c'est être l'héritier des Lumières. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire défendre la République, défendre son héritage. Ça veut dire être unis, ça veut dire aimer nos symboles, les porter et les promouvoir. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que garder dans son esprit que notre pays, c'est le pays qui émancipe, celui qui défend l'égalité, celui qui... et unique au monde pour ça, à la laïcité. Cette loi de 1905 qui permet de croire ou de ne pas croire, qui défend l'ensemble de ses citoyens, cette école qui fait des citoyens libres et éclairés, c'est ça être français.
La semaine dernière, en déplacement à Poitiers, où la Fédération des centres sociaux de France était installée pour une semaine de travail, on vous a répondu, ce qu'on attend, ce sont des réponses concrètes. Sans rentrer dans le détail de ce que peuvent être des réponses concrètes, que répondez-vous, vous qui aimez les symboles, la Marseillaise, le drapeau, les symboles de la République. À beaucoup de jeunes, ces symboles ne parlent plus.
Eh bien, ils ne parlent plus aujourd'hui et c'est pour ça que nous devons répondre avec une chaîne de transmission, avec tout l'ensemble des maillons. Je vais être très concrète puisque c'est l'idée de notre échange. Aujourd'hui, l'école est au cœur de cette construction de ces citoyens. C'est elle qui les forme. C'est pour ça que nous avons renforcé, dès 2017, avec Jean-Michel Blanquer, l'éducation civique et morale. Elle a vocation à se renforcer encore plus. C'est pour ça qu'il y a le Conseil des sages de la laïcité. C'est pour ça qu'avec le président de la République, nous mettons en œuvre le service national universel. Parce que comment nous pouvons faire nation ? Par l'engagement, par l'action, par le fait de se ressaisir de l'ensemble de notre histoire, de comprendre ce qui fait que nous sommes, que la République est une et indivisible. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la République n'est pas à la carte. C'est pas je choisis ce que je veux. La République, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous permet de nous instruire. C'est ce qui permet d'être en paix. C'est ce qui permet d'être égaux et d'être protégés. Eh bien, tout ça, il faut le réintégrer.
Aujourd'hui, face à ce discours-là, est-ce que vous craignez que le discours d'un Recep Tayyip Erdogan, mais pas seulement, il y a eu le Premier ministre du Pakistan, le ministre des Affaires étrangères marocain d'ailleurs, pour se poser la question, il y a une semaine, c'est Gérald Darmanin qui était au Maroc. Ces gens qui soutiennent la contestation du discours du président de la République, ils risquent d'avoir plus d'aura que vous, chez nous.
J'ai envie de vous dire non, parce que nous faisons bloc, parce que nous faisons front et parce que nous avons arrêté avec ces petites compromissions, ces petites douceurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vibrer notre pays et pourquoi nous menons ce combat, nous le menons pour notre jeunesse, mais nous le menons avec notre jeunesse. J'ai également vu dimanche, à l'hommage à Samuel Paty, j'ai également vu une jeunesse qui était debout, une jeunesse qui était fière de notre pays, qui était fière de nos symboles, qui a entonné une Marseillaise, puisque nous en parlons. Et vous savez, c'est notre responsabilité.
C'est pas une évidence pour tout le monde, la Marseillaise.
Non, ce n'est pas une évidence pour tout le monde.
Je vous parlais de Poitiers, vous avez voulu entonner une Marseillaise, vous étiez un peu seul.
Et pourquoi je l'ai entonnée ? Parce que c'est ce qui fait unité. Parce que Plus que jamais, nous avons besoin de ce lien, nous avons besoin de faire corps. Et c'est aussi pour ça que, pour une partie de notre jeunesse, il faut que l'ensemble des discours qu'ils entendent, à l'école ou en dehors, soient forts.
Si je vous reparle de ces rencontres à Poitiers et de cette Marseillaise, c'est pour un point précis. On a beaucoup souligné que les élèves n'ont pas chanté avec vous la Marseillaise quand vous l'avez entonnée. Dans la presse locale, j'ai vu que les élus locaux non plus.
Une partie, effectivement, ça a été excusé ou pas. Et c'est là où je vous dis les chaînes de transmission. C'est là où je réponds, moi, chaînes de transmission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'école, nous, nous avons une responsabilité de réaffirmer, de porter et de défendre l'école, mais également de faire des citoyens éclairés. Mais on ne peut pas être tout seul à l'école. Ça, c'est le sanctuaire à protéger. De l'autre côté, il faut, et c'est pour ça que nous avons signé avec le ministre de l'Éducation nationale et les fédérations d'éducation populaire, une déclaration solennelle pour réaffirmer les valeurs de la République et les défendre et les promouvoir.
Oui, vous voulez que les associations
mais
vous soutiennent
bien sûr,
dans ce... Comment ça peut se passer? Je ne parle pas des associations identifiées comme radicales,
non,
mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans une association, loi 1901 classique, qui puisse aider cette lutte contre l'islamisme politique, l'islamisme radical?
Expliquer c'est quoi la laïcité. Expliquer c'est quoi la République. Expliquer c'est quoi l'égalité dans notre pays. L'accompagner. Rappeler c'est quoi nos éléments d'unité. C'est quoi la puissance d'un drapeau. C'est quoi la puissance d'une histoire et d'un héritage des Lumières. C'est quoi cette République qui te soigne, qui te protège, mais surtout qui te donne les moyens. Qui te donne les moyens d'être le citoyen que tu souhaites sur le chemin de l'engagement. Et pour
mais
ça.
Pardon, c'est très beau tout ça, mais c'est vrai?
Oui,
est-ce qu'aujourd'hui, la République te donne les moyens, t'encourage, t'explique pourquoi le drapeau est beau? Est-ce qu'on retrouve ça quand vous le dites? Je me mets à la place d'un jeune en face qui vous dit, on a de jolies paroles là quand même.
C'est vrai, mais c'est pas suffisant et ce n'est pas partout. Sinon, on ne serait pas face à cet échec. Si c'était un combat déjà gagné, alors nous n'aurions pas à le mener. Sauf que la réalité, elle est où? C'est que nous sommes aussi héritiers de décennies de petites compromissions, de petites le fait de ne pas citer les choses. Depuis 2017, c'est tout le contraire qui est là. C'est pour ça que nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Le fait de dire, avec le service national universel, mixité sociale, mixité territoriale, unir des gens qui ne s'unissaient pas d'habitude. Vous savez,
le service national universel, c'est encore un sujet? Avec le Covid, les annulations qu'on a eues,
c'est plus que jamais un sujet et c'est plus que jamais au cœur aujourd'hui d'une des réponses pour faire nation, puisque c'était la question. Bien sûr qu'il sera généralisé. Et il sera accompagné parce qu'il va créer, vous savez, ce souvenir commun, ce creuset républicain qui va permettre à des jeunes qui ne se connaissent pas de se croiser. Et ça permet aussi autre chose, et c'est important de le souligner, d'unir des adultes en uniforme, nos armées, d'unir des éducateurs de l'éducation populaire et des enseignants. Et c'est toute cette force que nous devons faire. Quand le président de la République il dit « faisons bloc », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune doit entendre le même discours républicain à l'école, en dehors de l'école, dans son association, dans les activités qu'il y a dans sa commune, pour qu'il puisse avoir l'esprit critique, qu'il puisse avoir cette distance et suffisamment outillé pour contrecarrer des discours de haine qu'il peut voir sur Internet ou qu'il peut entendre malheureusement dans sa famille.
Un dernier mot ce matin, on va parler évidemment de l'épidémie de Covid. Gilles Pialoux, qui dirige le service des maladies infectieuses de Thonon, parle d'une probable erreur politique d'avoir sous-estimé le facteur de la rentrée. Ma question sera très simple, on est au cœur des vacances scolaires. Est-ce qu'on a fait une erreur en laissant partir les Français en vacances de la Toussaint?
Non, vous savez, nous luttons contre cette crise sanitaire de toutes nos forces. Et non, il n'y a pas, à mes yeux, il n'y a pas d'erreur. Plus que jamais, nous nous dotons, territoire par territoire, de réponses factuelles et concrètes. Avec des couvre-feux, avec des renforcements, avec des plans blancs dans certains hôpitaux. Et
avec
plus
des
que jamais,
projets de reconfinement, très clairement, ils sont sur la table aujourd'hui.
Mais toutes les hypothèses sont étudiées.
Non, mais
bien sûr,
plus que jamais, pardon, on parle de reconfinement. Pour Jean Rottner, président de la région Grand Est, qui a bien connu le Covid au moment de la première vague en tant que politique et médecin, le reconfinement est une évidence. Pourquoi ne pas le dire clairement?
Parce que nous accompagnons cette crise sanitaire étape par étape. Et il y a jeudi, évidemment, le point presse hebdomadaire pour avancer sur l'étape. Par contre, une seule chose, pour en sortir de cette crise et pour retrouver le plus vite possible notre vie normale, notre vie de tous les jours, celle que nous aimons, avec nos restaurants, nos bars et nos temps familiaux, eh bien, il faut faire, encore une fois, bloc et les gestes barrières, la distanciation sociale. Et tout le monde est invité. Mais bien sûr, c'est évidemment, tout le monde est invité à les tenir. Et notre jeunesse en premier, je sais que c'est difficile, mais plus que jamais, nous avons besoin de faire front parce que c'est la seule manière d'accélérer notre retour à la normale.
Sarah El Haïry, première fois sur Europe 1, je crois.
Tout à fait, première fois.
Merci beaucoup, Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargée de la jeunesse et de l'engagement. Il est 8h27. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
Mathieu Béliard.
Et à suivre l'info, le journal de 8h30 et un point météo avec Laurent Cabrol.
Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Émilie Dez.
Le cap des 6 millions de cas positifs au coronavirus a été franchi en Europe avec plus de 52 000 cas recensés rien qu'en France ces dernières 24 heures. La deuxième vague est bien là. Pour tenter de freiner l'épidémie, les mesures se multiplient. Première nuit sous couvre-feu hier en Espagne. Il est entré en vigueur dès 22 ou 23 heures selon les régions. Seules les Canaries ne sont pas concernées. Une forme de reconfinement partiel qui s'applique dans de nombreux pays d'Europe, Isabelle Horry.
Effectivement, ici à Bruxelles, par exemple, le couvre-feu va démarrer à 22h dès ce soir. Théâtres, musées, salles de sport ferment leurs portes aujourd'hui. Les bars et les restaurants, eux, ont déjà baissé le rideau il y a une semaine. La Belgique est l'un des pays les plus atteints sur le continent. En Italie, même type de mesures pour la culture et le sport. La restauration fermera à 18h, a annoncé hier le Premier ministre Giuseppe Conte. Un couvre-feu est en place dans les régions de Rome, Naples et Milan. Il devrait s'étendre cette semaine. Les restrictions se multiplient aussi à l'Est, qui avait été relativement épargné par la première vague. Couvre-feu en Slovénie depuis samedi, reconfinement partiel en Slovaquie, toute la Pologne placée en zone rouge. Et en République tchèque, où l'épidémie semble hors de contrôle, les déplacements sont restreints, les magasins fermés, les écoles en partie aussi. Mais le Premier ministre a prévenu hier qu'il allait sans doute falloir faire encore plus. En fait, il n'y a plus que le nord de l'Europe, Scandinavie et Pays-Baltes, qui semblent encore relativement épargnés par la montée en puissance de cette deuxième vague.
Isabelle Horry pour Europe 1. Nous sommes unis, rien ne nous fera reculer, jamais. Réponse d'Emmanuel Macron au président turc Erdogan, qui a une nouvelle fois mis en doute la santé mentale de son homologue français hier. En cause, cette phrase d'Emmanuel Macron prononcée lors de l'hommage à Samuel Paty. Il avait promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet. Depuis, plusieurs pays du Moyen-Orient ont appelé au boycott de produits français. Des appels sans aucun objet et qui doivent cesser, prévient le Quai d'Orsay. Tout est parti d'une simple cigarette. Selon des informations confirmées par notre journaliste Guillaume Biet, une femme de 30 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau hier soir à Saint-Vallier dans la Drôme. Victime d'une rixe parce que son fils avait refusé de donner une cigarette à un groupe de jeunes. Deux autres protagonistes ont été grièvement blessés. Les suites du procès des attentats de janvier 2015, début de la 9e semaine, avec l'interrogatoire du principal accusé. Il est soupçonné d'avoir servi de bras droit à Hamedi Coulibaly, le tueur de l'hypercacher Chloé Triomphe.
Dès les premiers jours, Ali Riza Polat a donné le ton, impulsif, colérique, intervenant à tout bout de champ. Il a manifestement hâte de s'expliquer. Sa position, comme tous les accusés jusqu'ici, c'est qu'il est, dit-il, innocent, qu'il serait victime de balance, qu'il aurait incriminé pour le faire taire dans une autre affaire de droit commun. Pourtant, Ali Riza Polat, c'est bien celui que l'accusation considère comme le bras droit du terroriste de l'hypercacher. Un qualificatif repris par une enquêtrice et qui l'a littéralement fait sortir de ses au point de menacer la policière à la barre des témoins. Sur le fond, l'enquête a mis au jour un très grand nombre d'échanges téléphoniques avec Hamedi Coulibaly jusqu'à la veille de l'attaque de Charlie Hebdo. 30 SMS la nuit du 6 au 7 janvier 2015. Il est accusé aussi d'avoir participé à la fourniture des armes et au financement du terroriste, bref, d'avoir été présent à tous les stades des préparatifs. Ali Riza Polat, qui encourt la perpétuité, a deux jours pour s'expliquer avant la confrontation générale entre les accusé, prévu mercredi.
Chloé Triomphe pour Europe 1. Et puis Lewis Hamilton sur le toit du monde de la Formule 1. Le champion du monde a remporté le 92e titre de sa carrière et efface ainsi le record de Michael Schumacher.
Merci beaucoup Émilie Dez. 8h34, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Il faisait pas chaud ce matin et même actuellement, il ne fait que 6 degrés à Angers en ce moment, 6 à Rouen, 6 à Paris, enfin en banlieue parisienne. Ce sont des températures froides vraiment pour la saison. Et dans le courant de la journée, eh bien on peut dire que le thermomètre perdra certes 2 degrés par rapport hier, mais enfin, il restera quand même assez bien portant. Entre 12 et 19 degrés, telle sera la fourchette du jour, en passant par 15 à Paris, Rennes et Bordeaux. Le temps, bien sûr, de la pluie. Alors, les pluies qui sont très présentes dans les régions de l'Est ont tendance à s'échapper maintenant, à quitter les frontières et passer chez nos amis des voisins de chez nous. Mais il y a encore pas mal de pluie aussi dans le sud-ouest, et puis beaucoup d'averses sur l'ensemble des côtes, qu'elles soient de la Manche ou de l'Atlantique. Bref, c'est une journée de pluie avec une exception. Le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le Morvan, le Berry et la région parisienne où les éclaircies seront prédominantes dans toutes ces contrées.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Dans un instant, on prend soin les uns des autres et la prescription du médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, notre santé. C'est le moment de prendre de la vitamine D. A tout de suite.
Europe Matin,
le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1. Très bon réveil à ceux qui nous rejoignent, qui ont changé d'heure, qui sont peut-être un peu perdus. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous avez plein de conseils à leur donner, justement, parce que là, l'ensoleillement baisse. Et ce matin, vous voulez nous parler de la vitamine D. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire une petite cure pour recharger les stocks avec, justement, cette luminosité en moins ?
Eh oui, vous avez raison. D'ailleurs, Mathieu, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une vitamine ?
Ah, dans les questions pièges, c'était pour l'interview il y a une demi-heure. Non, j'en ai aucune
alors,
idée.
Non, mais il ne fallait pas sécher vos cours de latin. Alors, vitamine, ça vient de vita, qui veut dire vie, et amine, substance organique. C'est donc une substance qui est nécessaire à la vie. Donc, le corps a besoin pour fonctionner.
C'est un peu court comme définition. Hein.
C'est un peu court, mais c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est une façon de vous défiler. En tout cas, c'est une substance qui est nécessaire pour le corps, pour fonctionner, mais qu'il ne peut pas produire en quantité suffisante. Et souvenez-vous, je vous disais qu'on pouvait avoir toutes les vitamines dans notre alimentation, c'est vrai, sauf pour la vitamine D. Alors, vous en avez un petit peu dans le saumon, dans votre huile préférée, l'huile de foie de morue, dans les œufs, dans le lait. Mais pour en synthétiser, on a besoin des rayons du soleil. Et effectivement, avec l'hiver, les journées sont moins longues et on risque d'être en carence. La vitamine D, on sait tous que ça sert pour les os, ça sert à absorber le calcium, c'est finalement assez intuitif. Mais ça sert aussi pour le fonctionnement des muscles, ça protège aussi vos neurones, ça vous protège aussi de certaines maladies cardiovasculaires. Il y aurait aussi un rôle dans certains cancers et surtout, les personnes qui sont en carence de vitamine D ont un système immunitaire qui est moins performant. Et on s'est rendu compte aussi que les malades du Covid qui sont en réanimation sont en déficit de vitamine D. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que si vous prenez de la vitamine D, vous allez guérir du coronavirus ou vous allez vous en prémunir. Mais néanmoins, une petite supplémentation pourrait ne pas faire de mal.
Oui, en tout cas, ça ne fait pas de mal. Est-ce que certaines personnes, Jimmy, au-delà de cette problématique Covid, est-ce que certaines personnes en ont plus besoin que d'autres ?
Alors tout d'abord, les carences sont extrêmement fréquentes et oui, certaines personnes en ont plus besoin, notamment les enfants. Ils sont en pleine croissance et donc pour les os, ils ont besoin de vitamine D. D'ailleurs, ils ont souvent une supplémentation, mais qu'on a tendance à oublier ensuite quand ils grandissent. On le donne bien les petites gougouttes quand ils sont tout petits, mais ensuite on oublie, mais il faut aussi en donner chez les enfants. C'est vrai aussi chez les personnes âgées, puisque l'absorption est moins bonne. Ils peuvent en avoir dans l'alimentation, ils ont des rayons du soleil, mais néanmoins, ils vont être déficitaires et ça va fragiliser leurs os. Même chose chez les personnes qui sont en situation d'obésité. Les besoins en vitamine D sont 2 à 3 fois plus importants chez une personne obèse car en fait la vitamine D va être séquestrée dans les tissus gras, elle va être bloquée par la graisse et donc elle va être moins disponible. Donc vous l'aurez compris, tous à vos gougouttes, prenez de la vitamine D sous forme d'ampoule, vous pouvez aller voir votre pharmacien et ça marche très bien, ça coûte pas cher et au pire c'est pas très grave si on en prend pendant quelques jours.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, 15h-16h sans rendez-vous, l'émission santé avec Mélanie Gomez. Il est 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et Fanny, vous nous interpellez ce matin car à l'heure où nous parlons, la banquise qui est censée se reformer en Arctique n'est toujours pas revenue.
Oui, ça fond et ça fond de manière très accélérée. La mer de Leptef, considérée comme le berceau des glaces arctiques situées au-dessus de la Sibérie, offre actuellement un passage béant. Un été indien qui a tendance à jouer les prolongations en raison de l'inertie thermique de l'eau. La chaleur inquiétante qui a eu lieu cet été ne s'est pas dissipée. La température de l'eau de mer est actuellement 5 degrés au-dessus des moyennes, ce qui ralentit la formation de la glace et donc la reconstitution de la banquise, effectivement.
Vous nous dites que la situation est en train de basculer avec un emballage. L'emballement du réchauffement, la glace étant un précieux bouclier qui régule le climat.
C'est ce qui est en train de se passer. Il faut se dire que moins il y a de surface blanche sur Terre, moins le rayonnement solaire est réfléchi. C'est un phénomène que les scientifiques ont appelé l'effet albédo. Les glaciers, la banquise, les sommets enneigés, les glaces terrestres comme le Groenland ou l'Antarctique sont autant de boucliers naturels qui dévient les radiations en provenance du soleil, ce qui régule le climat de notre planète en empêchant la surchauffe. L'ensemble des zones enneigées sur le globe, ça représente quand même beaucoup d'espace, c'est-à-dire cette cryosphère. Elle représente 40 à 85 millions de kilomètres carrés en fonction de la saison. C'est une capacité de réflexion du soleil colossale. Le problème avec la disparition de ces surfaces blanches, c'est que plus elles fondent, moins les rayonnements sont réfléchis et donc la Terre absorbe ces rayons. La chaleur va donc s'amplifier et la neige et la glace fondent encore plus rapidement.
Ah oui, je comprends, c'est un véritable cercle vicieux ce que vous nous racontez. Quelles seraient les solutions du coup pour stopper cet emballement ?
Alors, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées pour préserver les étendues glacées, notamment en Antarctique, où des chercheurs allemands, je vous raconte ça pour la blague, hein, ont proposé d'utiliser des canons à neige pour absorber l'eau issue de la fonte des glaces et la resolidifier pour endiguer le phénomène. Idée qui reste effectivement très controversée, car les canons à neige, vous le savez, sont particulièrement gourmands en énergie. Alors, la meilleure solution reste de lutter contre le réchauffement climatique, on ne le répétera jamais assez, en allant le plus rapidement possible vers la neutralité carbone. C'est notre seule chance de conserver cet effet albédo dont je vous parlais pour éviter une surchauffe ingérable.
On apprend des choses grâce à vous. L'effet albédo, je ne connaissais pas du tout. Merci Fanny Agostini, Notre Planète. Il est 8h42. À suivre, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent. La revue de presque.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu, vous êtes d'accord si on vous retrouve tout de suite, hein?
Avec
Allez,
plaisir.
On y va.
Et oui, ma chère Julie, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous écouter. Je fais tout ce matin. Je tiens la matinale à bout de bras, il faut bien le dire. Je fais le 7-9, je fais l'interview politique pour remplacement de Sonia Mabrouk. Bon, dans 48 heures, je vous le dis, je serai en burn-out. Mais l'info du jour, c'est autre chose. L'info du jour, c'est la colère. La colère de certains pays musulmans, nous l'avons évoqué avec Sarah El Rari. Et certains pays musulmans contre Emmanuel Macron après ses propos sur les caricatures du prophète. Des photos du président ont même été brûlées en pleine rue. Et oui, qui l'aurait cru? Mais aujourd'hui, Marine Le Pen a un point commun avec ces musulmans. Elle pense comme les musulmans. Qui l'aurait cru? Ça lui fait mal. Courage, courage Marine. L'autre info, c'est la conséquence de la première info. Il est quand même vachement bien construit ce journal ce matin. C'est l'appel au boycott des produits français de la part de nombreux pays musulmans après les propos d'Emmanuel Macron sur l'islam. On l'a entendu, ils vont arrêter d'acheter du kiri, de la vache kiri et du babybel. En même temps, si c'est ça pour eux, le fromage français, si c'est ça, c'est pas étonnant qu'ils nous détestent.
Merci Mathieu. Allez, on va parler pour commencer de la semaine noire de Jean-Luc Mélenchon, accusé par Jean-Michel Blanquer d'être un islamo-gauchiste. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Ça m'a le coup, moi. Arrêtez avec vos histoires d'islamo-gauchiste, hein. Vous vous gargarisez, hein, Leclerc. Après la gauche caviar, c'est la gauche couscous, c'est ça. Mais moi, madame, je suis républicain, moi. Pourquoi? Parce que la République, c'est moi.
Ah, oui.
Et ma personne est sacrée, comme le prophète, sacré.
Bon, voilà. Allez, on vous reproche d'avoir défilé avec le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, que Gérald Darmanin veut dissoudre d'ailleurs.
Mais arrêtez. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire le CCIF. Moi, je croyais que c'était le Crédit Commercial d'Île-de-France. Voilà.
Ah oui, ça peut aussi. Oui. Et Baraka City, vous ne connaissiez pas non plus?
Mais non. Ah. Mais oui, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Voilà, j'ai une culture, mais voilà, je croyais que Baraka City, je crois que c'était un casino à Las Vegas. Voilà. Pour les gens qui ont la baraka. Oui, monsieur Béliard, oui, ça existe.
Et quand vous dites du mal des Tchétchènes, c'est pas parce qu'ils sont opposés à la Russie de Poutine, hein?
Mais arrêtez, ça suffit maintenant. Hein, je ne savais même pas que Poutine était russe, d'abord. Je pensais que Poutine, c'était des frites avec des fromages. Voilà, c'est bon, c'est passé, je peux me présenter quand même en 2022.
Oh là, oui. Bon, oui, Canadien, vous pourrez ça. Vous présenter en 2022, hein, vous allez le faire de toute façon. Merci, monsieur Mélenchon.
Ouais.
Comment le président Macron prépare la riposte contre l'islamisme? Il est notre invité ce matin. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'aimerais être un président positif.
Ah.
J'aimerais être devant vous un leader optimiste, un chef qui croit en l'avenir. Mais je ne vais pas y arriver. Ok, il fait froid, il pleut, on est le pire pays d'Europe en Covid. On va se reconfiner, de toute façon, quand on sort, on se fait tuer par des terroristes. Et j'ai Castex comme Premier ministre. Je crois qu'on est dans le dur, monsieur Béliard.
Comme vous dites, oui. Et puis là, en plus, vous avez deux chevaux de bataille, le Covid et l'islamisme radical.
Mais vous savez, c'est très perturbant, on est bord de l'axis schizophrénie. Côté Covid, même Julie, je dois dire, couvrez-vous le visage.
Oui.
Côté islamisme, je dois dire, ne couvrez pas votre visage. Côté Covid, je dois dire, j'ouvre des lits en réanimation. Côté islamisme, je dois dire, je ferme des mosquées. J'ouvre, je ferme. Enfin, En plus, je suis crevé, je mélange tout. Hier, j'ai dit que le vaccin contre l'islam serait trouvé au deuxième semestre 2021.
Oh non, arrêtez.
Je suis
crevé. Ah oui, ça s'entend.
Et en plus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai Castex comme Premier ministre.
On sait. Gérald Darmanin a déclaré que d'ici quelques jours, il allait annoncer la fermeture de plusieurs groupes.
Oui, le collectif Cheikh Yassine, le groupe CCIF et le groupe Les Bébés Brunes.
Voilà. Hein,
oui, ils sont pas musulmans, les bébés brunes, mais ça fait du bien quand même si ça s'arrête.
Ah bon, un petit costard au passage, on sait pas pourquoi, mais enfin bon, allez. Certains pays musulmans ont appelé à un boycott des produits français, il y a ça aussi, hein, monsieur Macron.
Écoutez, je vous le dis, l'avenir économique pour la France va être dur. Le Qatar, en effet, il faut le dire à nos concitoyens, boycotte le caprice des dieux. Mais pas seulement, également le Babybel et la Vachkiri. Est-ce que notre pays, notre cinquième puissance mondiale, va s'en remettre? Je ne sais pas. Dans les banlieues, oui, mais vous riez, mais dans les banlieues de Jordanie, les ouvriers boycottent les vélos Décathlon. Il faut le savoir. Dans les montagnes du Pakistan, on ne vendra plus un seul sac Chanel. Mais comment va-t-on s'en sortir? On va perdre au moins 9 centimes sur la balance du commerce extérieur qui est déjà à moins 3 000 milliards.
Bon, écoutez, cet appel au boycott ne vous émeut pas tellement, on dirait. Hein,
écoutez, j'ai eu l'ambassadeur du Koweït hier.
Oui.
C'est grave.
Quoi?
C'est grave ce qui se passe. Il annule son abonnement à Charlie Hebdo. C'est donc un choc économique pour la presse française.
C'est ça, je crois qu'il s'en fiche, invisiblement. Allez, toujours sur ces pays musulmans qui ont appelé au boycott de produits français. Et qui suscitent.
Mais quelle bonne idée!
Ah, Marine Le Pen! Alors ça, c'est inattendu. Vous approuvez ces boycotts, vous?
Mais bonjour d'abord.
Bonjour.
Protocole. Bonjour Madame Leclerc. Bonjour à tout autre smala, Madame Agostini, Monsieur Cabrol, le docteur Jerry Abdallah. Et bonjour à toi, Jolie Métis.
Ah, voilà,
quelle polyvalence. Il est partout ce matin.
Oui, oui.
Non, toi, je ne te boycotterai jamais.
Oui, mais on se calme, hein, Marine Le Pen. Pourquoi vous venez de dire quelle bonne idée au sujet de ce boycott?
Écoutez, si les Arabes veulent boycotter la France, je ne peux que m'en féliciter, n'est-ce pas? Vous avez raison, je m'adresse à eux. Vous avez raison, amis musulmans, nous sommes une terre de mécréances. Ne venez plus. Vous serez malheureux ici, voilà. Boycottez nos banlieues, boycottez nos allocations familiales, boycottez notre sécurité sociale, ne l'utilisez plus, c'est haram.
Madame voilà. Le Pen, enfin, vous vous rendez compte de l'amalgame que vous êtes en train de faire?
Mais bien sûr, mais en ce moment, comme personne d'autre ne se rend compte de l'amalgame que je fais, je profite, voyez-vous. Je vis ma meilleure vie, Madame Julie. My best life, comme disent les jeunes.
Bon, écoutez, je crois qu'on va vous laisser là-dessus. Hein. Au revoir, Marine Le Pen. Autre chose maintenant, la région Rhône-Alpes est une des plus touchées par le Covid. À Lyon, la situation est explosive. Tous les indicateurs sont au rouge vif. Gérard Collomb, vous souhaitiez réagir?
Oui, bonjour, Madame Julie.
Bonjour.
Bonjour. Non, ne réglez pas votre poste à galène, c'est ma voix normale. Bonjour à tous. Écoutez, avant toute chose, ce n'est pas l'ancien maire de Lyon qui vous parle. Non, c'est le citoyen, le brave citoyen lyonnais. L'habitant, je dirais, neutre. Voyez-vous, qui n'est pas politisé, qui n'est pas dans les querelles partisanes et politiciennes.
D'accord.
Mais là, je m'exprime de façon neutre. Quand même, quel con ce nouveau maire, hein? Non, mais franchement, voyez où on en est avec sa politique. Tout le monde est malade. Non, écolo de mes fesses, franchement.
Oh là, en même temps, ça explose partout.
Pour ne
hein.
pas dire autre chose.
Oui, d'accord. Ça explose partout, monsieur Collomb, hein, pas simplement à Lyon.
Mais oui, mais écoutez, mais c'est normal. Les écolos tiennent toutes les villes et on ne soigne pas les gens. Franchement, aujourd'hui, avec les maladies que nous avons autour de nous, on ne soigne pas avec de l'huile essentielle de menthe poivrée ou de l'homéopathie ou des décoctions de racines de fenouil. Non, encore une fois. Mais je dis ça en toute simplicité. Je ne cherche pas la polémique.
Bon, écoutez, parlons d'autre chose. Des tags ont été découverts. Ils menacent plusieurs élus lyonnais de décapitation. Ça devrait vous inquiéter.
Écoutez, évidemment, je ne peux pas prendre ça à la légère. Plusieurs élus lyonnais menacés de décapitation. Je me considère néanmoins, Mme Julie, je vous le dis, à votre antenne, Je me considère comme chanceux, vous savez.
Ah bah parce que vous n'êtes plus aux affaires, oui.
Non, parce que non, c'est surtout parce que c'est très compliqué de me trancher le cou, vu que je n'ai pas de cou. J'ai une tête posée sur des épaules. Ils vont avoir beaucoup de mal.
Effectivement. Merci, Gérard
Collomb.
Qui aurait pu croire qu'on rigole
de cela.
Oui, bon, oui, c'est vrai. Allez, on vous laisse.
On en a fait du
chemin. Oui, c'est bon. Oui, Gérard Collomb, retournez-vous coucher, c'est bon. Allez, un mot de football maintenant, avec la victoire du PSG contre Dijon, 4-0, dont deux buts de Kylian Mbappé. Bonjour Kylian, ça faisait du bien hein, après la défaite contre Manchester.
Oui, bonjour madame. Oui, vous avez vu ce match magnifique que nous avons produit, un football que je qualifierais de champagne, du beau jeu, des buts, comme quoi Paris est magique. Hein. Mais bon, il est magique contre Dijon, hein, contre une vraie équipe, c'est vrai qu'on n'y arrive pas. Idéalement, il aurait fallu une finale de Ligue des Champions contre Dijon. Et là, on aurait eu un grand Neymar. Quoique, même contre Dijon, il ne marque pas de but.
Enfin, c'est un peu facile d'être fort quand l'adversaire est faible, avouez.
Hein, ça, c'est une belle phrase. Ça. C'est facile d'être fort quand l'adversaire est faible.
Ouais,
c'est vrai,
bien,
mais
hein,
c'est une belle leçon d'ailleurs pour Jean Castex. Hein. En maire de Dijon, il aurait été très bon, Jean Castex. C'est en premier ministre que ça pose problème. Avant qu'il s'attaque à un adversaire comme le Covid, il aurait peut-être déjà fallu le tester contre un adversaire plus petit, comme, je ne sais pas, un rhume par exemple, hein, ou un panari. Voilà, on saura pour la prochaine fois.
Eh ben, comme vous dites, merci. Et puis il y a un autre coach qui a bien redressé la barre, c'est l'entraîneur du Real Madrid. Bonjour Zinedine Zidane.
Bonjour.
Alors après avoir perdu vos deux
ça
derniers matchs, comment
vous m'entendez?
Ah, oui, m'entendez. Oui, mais montez un peu le son quand même.
D'accord, après... d'accord, vous m'entendez, c'est bon.
Alors oui, on vous entend, Zizou. Après avoir perdu
c'est
vos
bon,
deux
derniers... C'est bon, là.
Vous avez donc perdu vos deux derniers matchs, vous avez gagné le Classico contre Barcelone, vous étiez sur la sellette, hein, un petit peu comme Jean Castex d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Pardon, mais là vous... Vous n'êtes pas en train de me comparer à Jean Castex, quand même.
Bah, parce que... si, enfin, oui, vraiment.
Non, parce que quand
oui,
même,
oui,
je vous rappelle, j'ai gagné une Coupe du Monde, trois Ligues des Champions consécutives comme entraîneur, et il a gagné quoi, Castex? C'est quoi son palmarès, rappelez-moi.
Non, mais c'était juste pour dire que quand on est le chef d'une équipe, parfois, on est dans le dur, mais après une victoire, bah, tout est effacé.
Oui, ouais, mais en fait, c'est ça le vrai problème. C'est est-ce que les mots « victoire » et Jean Castex sont compatibles.
Oh, allez.
Quoique au nombre de cas Covid, lui aussi, il est en train de battre Barcelone.
Vous n'avez pas tort.
Merci Nicolas Canteloup et bravo. Merci, à demain. Nicolas, Julie, on salue Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presse qu'à retrouver sur Europe 1.fr. À 8h57, il est là, bien sûr, Philippe Vandel, c'est Culture Média. La matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre info média du jour, ce sera un presque anniversaire, les 60 ans en avril de la revue culte des cinéphiles Les Cahiers du Cinéma, où il y avait Godard, Truffaut, Romer. Il y a quelques mois, toute la rédaction a démissionné à la suite du rachat de la revue par une vingtaine d'actionnaires. Là maintenant, une nouvelle équipe est en place, nouvelles ambitions. On sera avec le nouveau rédacteur en chef, Marcos Uzal. Puis le comédien Samuel Le Bihan pour un film très émouvant qui passe ce soir. T'en fais pas, je suis là. C'est le quotidien d'une famille ou d'un papa seul, même d'ailleurs, avec un enfant autiste. Film très personnel puisque Samuel Le Bihan est lui-même papa d'une petite fille autiste de 8 ans. Et puis celle que la presse surnomme la rockstar des pianistes, la Beyoncé du piano, la Betty Boop de la musique classique, Katia Bounatichvili. Elle sort un nouvel album, s'appelle Labyrinthe. Ça va d'Ennio Morricone à Brahms en passant par Gainsbourg et Mozart. Ce sera tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Mais oui, évidemment.
Culture Média, c'est dans quelques toutes petites minutes après l'info avec Philippe Vandel, évidemment, de 9h à 11h. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle journée à présent. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.